Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Victoire obligatoire, quelle que soit la manière, selon le sélectionneur.
On peut disserter, il n'y a qu'une chose.
Son équipe n'a pas le droit à l'erreur.
C'est le résultat.
Encore faudrait-il pour cela qu'il commence à jouer au football, ce qui n'a pas vraiment été le cas.
Vous suivez Au bout du foot avec Malik Eudy et toute sa team. Chaque lundi, 20h30, 22h, sur monparisfm.com.
Bienvenue à tous et à toutes, 20h37 sur Mon Paris FM. L'émission c'est Au bout du foot et puis notre réalisateur aujourd'hui c'est Léo. Une grande pensée pour notre champion Jason Lindor, on est avec toi, on te salue et puis reviens-nous bien retapé malgré tout. Alors Au bout du foot aujourd'hui avec des amis et non des moindres, je vais commencer par Lucas. Salut Lucas.
Salut.
Ça va bien ? Bon week-end de sport, de foot ?
Gros week-end de foot et gros week-end de Ligue 1, on en a parlé un petit peu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un week-end comme ça. Hein.
Bon, on va en parler dans quelques instants. Et puis, t'as le journal aussi à nous proposer.
Toujours, toujours.
Le journal de Lucas, ça arrive dans quelques instants. Salut Léo.
Salut Malik, ça va ?
Défense centrale ou attaquant ? Oui, moi ça va super bien.
Plutôt milieu de terrain.
Milieu de terrain, mais ça tombe bien, on coupe la poire en deux. Ça va, t'as passé un bon week-end aussi ?
Super, super.
Super bon
et toi,
week-end.
Ça a été ?
Bah oui, ça a été tranquille, normal, comme d'habitude. Et puis, on a un nouveau venu avec nous. Salut Asdin.
Salut Malik, comment ça va ?
Ça va Asdin ? La forme ?
Super, bien. Nickel. Chrome.
C'est ta première, hein ?
Première.
Alors,
excité.
Tu t'attends à quoi ?
Ah bah, à du foot tout simplement, et il y a un bon sommaire là. Donc,
ah, parce qu'à bout, il a bien vendu Asdina, il m'a dit Malik, tu vas voir, il envoie du lourd et tout ça, j'ai dit j'attends ça avec,
on serait pas déçu.
Avec impatience. Et puis, on a nos deux amis qui arrivent dans quelques instants également, Eladj et Alfred, et puis saluer la présence de Darius. Salut Darius, le Gunners.
Salut Malik, ça va ?
L'homme d'Arsenal, ça va mon champion ?
Eh bah écoute, très bon week-end, hein.
Alors, t'es content quand l'Arsenal gagne comme ça là, t'es un homme heureux.
Ouais bah écoute, là ça va, on enchaîne les bons week-ends, donc pour l'instant on garde le sourire et on verra pour la fin de saison.
En tout cas ça va chauffer aujourd'hui dans cette émission d'Au bout du foot, je le sens comme ça, parce que Eladj a changé de place. Salut Eladj.
Non, j'ai pas changé de place, j'ai juste pris ma place.
Là oui, Eladj on a pris sa place, t'es dans l'équipe, t'es dans la team quand même. Défense centrale ou milieu de terrain ou attaquant aujourd'hui ?
Moi je suis attaquant moi tout le temps.
Attaquant ?
Bah oui, je suis là pour marquer des buts.
T'es sûr qu'on va marquer des buts ?
Bien sûr, je mets toujours des buts. Bah, demande à Cheikh Kenza, il va te dire.
Ouais. Cheikh Kenza qu'on salue d'ailleurs, un autre justement de nos consultants. Et puis le retour d'Alfred, salut Alfred.
Salut.
Ça va mieux ?
Ouais, ça va.
La santé ?
Ça va.
Les deux équipes allemandes en demi-finale, là, t'es enchanté là.
Ouais,
le spécialiste du foot allemand.
Il faut garder espoir.
N'est-ce pas ? Alors, notre superviseur, il est là, hein, notre ami Aboubakar. Et puis, à vous dire encore une fois que Léonard réalise Au bout du foot de ce soir. Tout de suite et maintenant, le sommaire. C'est parti.
Au sommaire de notre émission, nous débutons avec la rubrique 30 secondes chrono où chaque consultant partage son fait marquant de football. Ensuite, le journal du foot de Lucas vous rattrape sur les derniers développements importants que vous pourriez avoir manqués. Nous analysons également les résultats du week-end en Ligue 1 et discutons des confrontations à venir en demi-finale de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain face à Dortmund et le Bayern Munich contre le Real Madrid. Nous examinons les enjeux de ces matchs, les stratégies potentielles et l'état de forme des équipes. Notre attention se porte aussi sur les demi-finales de la Ligue d'Europa opposant l'Olympique de Marseille à l'Atalanta et la Roma face au Bayern Leverkusen. De plus, nous abordons les options futures pour l'entraîneur de l'Olympique de Marseille en envisageant les potentiels successeurs de Jean-Louis Gasset pour la saison à venir. Et pour terminer, nous nous interrogeons sur Marquinhos, qui après plus de 10 ans au Paris Saint-Germain, considère ne pas finir sa carrière ailleurs. Est-il devenu une légende du club et du championnat français ? La question est posée. Au bout du foot, toute l'essence du foot en 90 minutes. Bienvenue.
20h41 minutes sur mon Paris FM, le sommaire est ainsi dressé. On va profiter pour saluer notre ami Stéphane Desenclos du quotidien du sport.fr. Salut Stéphane.
Salut les amis, bonjour à tout le monde, ça va bien ? Ah, j'ai une pêche, moi, aujourd'hui. Une pêche, incroyable. Je me suis éclaté ce week-end.
Le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions, c'est ça ?
Non, rien à voir avec le Paris Saint-Germain. Hein.
Juste la Ligue 1.
C'est la Ligue 1, c'est la Ligue 1, en fait, c'est la Ligue 1. C'est la Ligue 1, Stéphane.
Les défenseurs de la Ligue 1 arrivent enfin à leur fin, donc c'est super content.
Bah, il a fallu attendre justement autant de journées pour voir justement des matchs aussi enlevés.
Hein. Non plus, mais bon, quand il y en a une, ça fait du bien.
Bah écoute, ma foi, c'est tellement rare que tu le soulignes, hein, n'est-ce pas ? 20h42 minutes sur mon Paris FM, on va débuter avec le 30 secondes chrono. C'est parti avec Lucas.
Alors moi, pour mon 30 secondes chrono, je vais parler de Leicester. Leicester remonte en première ligue une année après être descendu en championship et ça me fait très plaisir. Pourquoi ? Parce que déjà Leicester en 2016 ont gagné la première ligue et j'estime que c'est un des plus grands exploits du foot de ces dernières années. Et aussi parce qu'il y a un homme, Jamie Vardy, dont j'ai envie de parler. Alors que tout le monde est parti, ses amis Kanté, Mahrez avec qui il a gagné le titre, lui il a décidé de rester. Il s'est battu pour son club, il est descendu avec son club et il les a remontés. À 37 ans, il a encore mis 16 buts en championship. Donc voilà, c'est une légende du club et c'est beau les histoires comme ça.
Merci Lucas, pile poil, hein. Oh, t'as le sens du timing. Exactement. Mon grand. 30 secondes chrono cette fois-ci avec Eladj.
Moi c'était pour parler de Thiago Silva, hein. Thiago Silva pour moi qui va bientôt prendre sa retraite je pense avec Chelsea. Et du coup Thiago Silva, moi c'est vraiment un crève-cœur le fait qu'il ait quitté le PSG en tout cas de cette manière-là. Et qui reste pour moi une légende du football, enfin pas loin d'une légende parce qu'on sait que maintenant une légende c'est très... voilà. Mais en tout cas c'est un très très bon joueur et un très grand joueur et je lui souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses. Et ça m'a brisé le cœur de voir sortir de cette façon avec Chelsea.
Mais les gars, vous êtes là aujourd'hui pour faire des éloges à tous les darons du foot là. C'est quoi, Jimmy Vardy, Thiago Silva?
Franchement, on doit remercier notre époque. Hein. On a vécu, je pense, une très 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 bonne époque.
Vous êtes concerté là ou quoi?
Non, du tout.
Mais apparemment,
le prochain, c'est qui? C'est Dante? C'est qui?
Oui, il va peut-être partir en...
au Brésil.
Voilà, au Brésil ou en Colombie ou chez les Tigres, on ne sait pas trop.
Il n'a pas fini.
Pour nous, en tout cas, là-bas, c'est un peu la retraite.
Qui nous dit qu'il ne va pas finir en Arabie Saoudite aussi? Sait-on jamais?
Il est annoncé au Brésil. Hein.
Ouais, Brésil, au Brésil. Il va rentrer à la maison.
Il retourne à la maison. 30 secondes chrono cette fois-ci avec Léo.
Oui, alors moi de mon côté, je voulais parler de ce qui se passe en Bundesliga, mais pas en Bundesliga allemande, en Bundesliga autrichienne, où le Sturm Graz est en passe de réaliser un véritable exploit. Celui de faire tomber le Red Bull Salzbourg qui domine le championnat depuis 10 ans. Ils les ont affrontés ce week-end, ils ont fait 2-2, il reste 3 journées à jouer, ils ont 3 points d'avance et ils jouent les deux dernières équipes de la phase de championnat. Donc on va certainement assister à quelque chose d'historique.
Bah super les amis, hein. Qui s'intéresse à un championnat aussi lointain autour de la table? Bravo! Bravo Léo.
Non, franchement ça va.
Non, bah, là tu regardes dans le sens de quoi tu regardes.
Non mais je suis un peu de loin, moi ça va, de loin en tout cas. Il y a des bonnes équipes comme Salzbourg, on les voit souvent en Ligue des Champions. Hein. Moi en tout cas je les vois, ils sortent beaucoup de pépites. Il y a des bons joueurs et souvent ils sont directement ralliés au RB Leipzig. Du coup,
et puis, ils sont vite dépouillés aussi. Hein.
Oui, bien sûr, mais ils font des pépites.
N'est-ce pas ? 30 secondes chrono, on commence cette fois-ci avec Asdin.
Oui, avec le Bayer Leverkusen, c'est tout simplement fou. Encore une fois, à la dernière minute, ils arrivent à marquer un but pour égaliser. Ils n'ont toujours pas perdu, ils étaient menés 2-0 face à Stuttgart. Et là, on se dit, c'est bon, c'est fini, ils sont champions. Mais non, ils reviennent. On ne sait pas ce qui va se passer, ça sera peut-être historique, ils vont peut-être jamais perdre. On ne sait pas, même en Europa League avec la Roma, bref. C'est tout simplement fou ce qui se passe avec le Bayer Leverkusen. Xabi Alonso fait un travail de malade mental, tout simplement.
C'est la 9e fois qu'ils arrivent justement à égaliser ou à reprendre le dessus hein, depuis le début de ce championnat.
C'est
franchement, c'est quelque chose de magique. On se demande même parfois si c'est pas arrangé, tellement c'est gros. Hein ? Non, mais sérieusement, c'est trop gros ce qui se passe là avec le Bayer Leverkusen. On va partir du côté du quotidien du sport.fr avec Stéphane. Stéphane, tu as un 30 secondes chrono ?
Oui, j'en viens rapidement. C'est pour attirer un peu quand même l'attention. Ce qui se passe par contre aux Girondins de Bordeaux, il faut que je pense tous les gens qui écoutent et qui sont autour de cette table prennent bien conscience que le club peut être tout à et pour l'instant sera très probablement relayé par la DNCG. Donc ce qui se passe, c'est quand même catastrophe. Et quand tu as 6 clubs, 6 fois champion, c'est désespérant. Moi, j'avais été un énorme supporter des Girondins, mais je trouve ça désespérant quand même de ce qui se passe à Bordeaux. Le club est très 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 mal avec un déficit de 44 millions, donc c'est très très dur.
Ça veut dire quoi, que Bordeaux pourrait descendre en national, c'est ça?
Bah ils sont, ouais, s'ils sont, ça dépend. S'ils sont en Ligue 2 là, bon, ils vont se maintenir en Ligue 2 par le sportivement, donc ils peuvent être relégués simplement en national, une relégation administrative, mais ils peuvent aussi, s'il se passe rien, ils peuvent aussi encourir un dépôt de bilan, une mise en faillite qui peut emmener le club encore plus bas. Il faut savoir que le club n'arrive plus à payer ses prestataires de services, les types qui tondaient la pelouse, ils se sont barrés avec les tondeuses pour prendre l'argent qu'on leur devait. Il n'y a plus de papier toilette, il n'y a plus de PQ dans les toilettes. Et on en rigole, mais c'est absolument pas drôle. Je trouve ça dramatique. Et le football français est quand même un peu responsable, parce que d'avoir refilé les rênes et accordé que le club reparte comme ça... L'année dernière, ou il y a 2 ans, je crois, au moment où ils sont descendus, on savait que ça allait être une fin dramatique. Alors, je ne sais pas s'il va finir par vendre, à quoi se raccrocher, mais c'est un club qui est en grand danger, qui va fêter, pas le club, mais le Parc Lescure va fêter, le Stade Chaban-Delmas va fêter ses 100 ans bientôt, là, et avec plein de grandes gloires du club et tout, et c'est très triste quand même de voir le destin de ce club.
Franchement, c'est très triste. Hein. Et je sais que Christophe Dugarry a déjà plusieurs années le dénoncé. Il sentait ça venir. Hein. J'écoutais une de ses interviews il y a déjà plusieurs années. Il sentait le danger venir et malheureusement, ça ne s'est pas loupé. 30 secondes chrono avec toi, mon cher Alfred.
Bah, en fait, je continuerai toujours de rejoindre Azine concernant la performance du Bayer Leverkusen. C'est un club qui essaie de battre cette année pour pouvoir montrer de quoi ils ont travaillé. Les performances du club sont des résultats réguliers, donc quelque part il faut saluer ça, parce que bon, après le but égalisateur, je me demande si c'était pas un petit hors-jeu, parce que bon, l'arbitre, voilà, donc j'avais un peu de doute, mais quand même il faut saluer quand même cette jeune équipe qui, ma foi, est toujours présente, qui voilà, qui lâche rien. On espère que peut-être qu'elle va se qualifier face à la Roma, mais voilà, donc c'est tout ce que je pourrais dire de ce qui s'est passé cette semaine pour eux.
Mais on ne va pas continuer à faire des éloges, hein, même si c'est grand ce qu'ils ont fait. Hein. On l'a dit la semaine dernière, aujourd'hui encore. Bravo à vous. Et puis on va l'enchaîner tout de suite avec notre ami Darius. 30 secondes chrono, l'homme d'Arsenal.
Bah, c'est vrai que j'ai pour habitude de parler d'Arsenal pour mes 30 secondes. Mais là, pour une fois, je vais faire une exception alors qu'il y a des choses à dire. Moi, je vais parler de la sonorisation des arbitres. J'ai lu une très belle nouvelle tout à l'heure sur Le Parisien. C'est que le président de la FFF, Philippe Diallo, a annoncé que normalement, l'année prochaine, les arbitres, du coup, seraient sonorisés et on entendrait leurs décisions et ils nous expliqueraient leurs décisions. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de super pour voilà, un peu canaliser cette frustration que les supporters et surtout les joueurs pourraient avoir envers les arbitres. Je pense que là, voilà, avoir une explication, soit en live, soit après le match, ça va faire beaucoup de bien.
Est-ce que ça va réduire les erreurs pour autant, les amis? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein.
Non, là, ça va rien changer.
Pour moi, ça va... En tout cas, ça nous mettra toujours un justificatif sur la bêtise. On pourrait essayer de comprendre la bêtise. Ouais. Au basket, moi, je vois, par exemple, en NBA, directement, ils annoncent et ils disent pourquoi il y a faute, s'il n'y a pas faute ou quoi. Du coup, non, moi, je pense que c'est une bonne idée. C'est un pas en avant quand même.
Je pense que ça ne va pas enlever toutes les erreurs. Il y aura toujours des erreurs d'arbitrage et ça, tant qu'il y aura des arbitres. Après, je pense que l'incompréhension, elle crée beaucoup de frustration, que ce soit chez les supporters ou chez les joueurs. Et là, au moins, juste le fait de comprendre, même si on n'est pas d'accord, ça va enlever une part de frustration.
Stéphane, tu penses quelque chose là-dessus là ?
Non, ben moi je pense un peu que ça sert moi je pense que ça sert à rien du tout, parce que on l'a vu par exemple, il y a un exemple d'abord faut voir comment ça va être fait, mais ça semble rien. On a vu un exemple tout à fait flagrant, c'est le match le Classico OM-PSG. L'arbitre de la rencontre est venu à la fin du match répondre aux questions des journalistes pour expliquer les deux décisions très importantes et très impactantes du match, c'est-à-dire l'expulsion de Beraldo d'abord et le but refusé à Jordan Veretout après. Et tous les supporters ou devant la télé, on a tous eu un sentiment. Par ma part, c'était qu'il aurait, Beraldo n'aurait pas dû être expulsé et que le but aurait dû être accordé. C'était ma façon de voir les choses. Maintenant, les explications. D'ailleurs, même les journalistes et tout ont dit, bah, moi, je ne suis pas d'accord et tout. Je pense que ça va que... Moi, ce n'est pas quelque chose qui me manque hein, quand il refuse un but de la main et tout, parce qu'on ne va pas dialoguer en disant « Oui, mais la dernière fois, c'est ça qui se passe hein, sur les réseaux sociaux. Dans le même match, il y a eu la même occasion et l'arbitre n'a pas sifflé ou a sifflé, etc. etc. » Là, l'arbitre va dire « J'ai pas sifflé parce que c'est comme ça, sûr de lui et tout. C'est comme ça et ça ne va rien apporter. » À mon avis, rien du tout. Quoi.
Merci Stéphane pour tes lumières. Tout de suite et maintenant, le journal de Lucas.
Alors cette semaine, j'ai voulu vous parler du FC Porto, parce qu'il y a un nouveau président au FC Porto. À ma gauche, il y avait Jorge Nuno Pinto da Costa, 86 ans, légende du club. Il est l'homme qui aura fait du FC Porto un grand d'Europe et le meilleur club portugais. Président des Dragões depuis 42 ans, c'est 15 mandats, plus de 63 titres remportés, dont 2 Ligues des Champions, 2 Europa League et 23 championnats du Portugal. Il est aussi un homme de scandale, embourbé dans des affaires de corruption, comme l'affaire du sifflet doré de 2004, pour laquelle il est accusé d'avoir payé l'arbitre de Beira-Mar Porto lors de la 31e journée du championnat, ou de fraude fiscale, d'escroquerie et de blanchiment d'argent, notamment pour le transfert d'Eder Militao à Madrid en 2019. 50 millions d'euros quand même. À ma droite, André Villas-Boas, 46 ans, c'est le petit prodige. Dès ses 17 ans, il devient l'assistant de Sir Bobby Robson, qui avait été bluffé par sa compréhension du jeu. À 19 ans, il obtient son diplôme d'entraîneur. À 27 ans, il suit Mourinho à Chelsea puis à l'Inter en tant qu'adjoint. Nommé entraîneur principal du FC Porto en 2010 à tout juste 33 ans, il réalise l'exploit de remporter un quadruplé dont le championnat du Portugal et la Ligue Europa. Après des passages plus contrastés à Chelsea, Tottenham ou Marseille, AVB a déclaré son ambition, mettre fin au règne de Pinto da Costa et devenir président du FC Porto. Le verdict a été rendu ce dimanche. Les 26 000 socios qui se sont rendus aux urnes ont voté à 80% pour Villas-Boas qui a remporté son pari. Celui-ci était tout sauf aisé, puisque Pinto da Costa a pesé de tout son poids auprès des supporters, allant jusqu'à les intimider ouvertement et a conditionné la prolongation du coach, Sergio Conceição, à sa réélection. Un double désaveu donc pour l'ancien président qui a vu ses supporters lui tourner le dos et Conceição ouvrir la porte à une collaboration avec Villas-Boas aussitôt son élection acquise. La conséquence de ce changement de présidence, c'est que Villas-Boas a déjà nommé Andoni Zubizarreta comme directeur sportif. Il va modifier le projet de formation prévu par son prédécesseur et va devoir redresser le club qui connaît de gros problèmes de trésorerie. Surtout, il a annoncé qu'il reverrait les accords avec les groupes de supporters les plus proches de Pinto da Costa qui ont trop de privilèges selon lui, ainsi que la création d'une équipe de futsal et d'une équipe féminine. Ce vent de nouveauté n'a malheureusement pas inspiré les joueurs du FC Porto qui ont concédé le nul 2-2 contre leurs rivaux du Sporting Lisbonne qui fonce vers le titre de champion. L'essentiel est ailleurs, pour le FC Porto qui entame un nouveau cycle qui, souhaitons-le, sera aussi glorieux que le précédent. N'oublions pas qu'on parle d'un club qui, à lui seul, a plus de trophées européens que tous les clubs français.
T'aimes bien le rappeler, ouais, ça. Hein. J'aime bien. Ça pique, hein, ça fait
c'est
mal.
C'est la pique par rapport à la discussion de la semaine dernière.
Merci, Lucas, pour ce journal. Tout de suite et maintenant, les amis, on va se projeter dans la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a-t-il l'obligation d'assurer sa qualification dès le match aller? Quel 11 Luis Enrique doit-il aligner? Quelles sont les forces et faiblesses des deux équipes? Les chroniqueurs sont là. Ça arrive juste après la virgule. Stéphane, je vais commencer par toi à dessein d'ailleurs. Est-ce que le PSG a l'obligation d'assurer sa qualification dès le match aller de cette Ligue des Champions demi-finale?
Ça dépend. Déjà, ça dépend ce que tu appelles ou ce que vous appelez assurer la qualification. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a surtout l'obligation, c'est
un score large. Un score large.
Voilà. Non, ça je pense pas. Je pense pas. Maintenant, je suis pas. Franchement, je suis pas du tout. Je suis pas entraîneur de foot et je suis pas non plus donc un grand maître tacticien. Donc je pense pas. Maintenant, il a surtout obligation de ne pas compromettre sa qualification. C'est-à-dire qu'on a vu avec le Paris Saint-Germain ce qu'ils étaient capables de faire. Je pense qu'ils ont surtout intérêt à ne pas la compromettre. C'est sûr que si moi ne pas perdre, moi je dirais qu'ils ont plutôt intérêt à ne pas perdre. Maintenant, pas perdre, ça ne veut pas dire qu'on assure sa qualification.
Asdin,
tout simplement le Paris Saint-Germain, non, je pense pas, parce que si le Paris Saint-Germain marche avec la pression. S'ils commencent à gagner un trop gros score, je pense qu'arrivés au Parc des Princes, ils vont se relâcher et le BVB va revenir. Je pense qu'il faut montrer aux Allemands là-bas, en Allemagne, que voilà, ils sont présents, c'est une équipe sérieuse. Et je pense qu'un bon 2-1, ça peut faire du bien au Paris Saint-Germain.
Alfred ?
Moi, je ne partage pas trop votre avis. Vous savez, le Paris Saint-Germain est un club régulier en Ligue des Champions. Arriver au niveau des demi-finales, il ne faut pas songer à aller faire un 2-1 là-bas. La meilleure des solutions, c'est de gagner. Parce que pour moi, aujourd'hui, Paris est au-dessus de beaucoup de choses. Donc pour moi, Dortmund, certes, arrive à faire des choses, des bonnes choses. Mais pour moi, si Paris n'arrive pas à s'imposer là-bas avec Mbappé, je vous dis une chose, ce serait revenir avec un résultat modeste. Pour moi, aller en finale, j'y crois pas trop. Il faut faire le devoir de gagner et de revenir. Lorsque le Bayern est allé à Londres faire un 2-2, ils sont revenus, ma foi, avec la grande motivation de pouvoir gagner à Munich. C'est ça qu'on attend des grands clubs. Mmh. Donc aujourd'hui, si Paris ne saisit pas cette chance, elle ne gagnera jamais la Ligue des Champions. Parce qu'elle ne joue pas contre un grand club comme le Bayern, comme le Real. Donc Dortmund, ça reste moyen et à sa portée. Si vraiment Paris ne se fait pas confiance, hein. Moi, c'est mon avis personnel.
Mais est-ce qu'une défaite en Allemagne veut dire qu'ils ne vont pas se qualifier?
Après, une défaite sur un score de 1-0, si Paris se fait confiance, elle peut gagner à domicile.
Ouais.
Mais comme je dis, quand tu as des grands attaquants autour de toi, c'est maintenant.
Je comprends.
Darius,
Paris a l'obligation de se qualifier en finale, mais ils n'ont pas forcément l'obligation de se qualifier dès le match aller. Ils ont le luxe de pouvoir faire le match retour au Parc. Je pense que le match aller, ça va déjà être un peu pour tâter le terrain. Parce que même s'ils ont quand même l'avantage, je pense, sur papier, Dortmund, c'est un peu une équipe imprévisible. C'est le genre d'équipe qu'il ne faut pas forcément sous-estimer. Il ne faut pas les surestimer non plus. Ils ont quand même énormément d'erreurs dans leur jeu. Voilà, je pense que ça va être un match assez ouvert. Et c'est l'occasion pour Paris de soit se mettre à l'abri, mais sinon, ils peuvent se rattraper au match retour.
La même question pour toi, Léo.
Personnellement, je pense que Paris a un champ devant lui pour se qualifier en finale. Est-ce qu'ils ont obligation de marquer le coup au match aller? Je ne sais pas, parce qu'ils jouent à l'extérieur, faut pas l'oublier. Après, on a bien vu en quart de finale qu'ils ont su renverser un score négatif pour eux, un désavantage plutôt. Au vu des prestations de Dortmund récemment, des espaces laissés dans le dos pour ceux qui ont vu le match contre Leipzig ce week-end, il y a franchement moyen de se faire plaisir.
Notre ami Zouleux, tu veux dire quoi? Il est trop lourd, Zouleux.
Non, mais déjà parce que Hummels est grandement incertain, à la fois pour l'aller et certainement pour le retour, parce qu'il y a des espaces vraiment terribles, et pas que dans l'axe, parce que Ryerson fait pas une très bonne saison, parce que le couloir droit est pas assuré non plus, on sait pas trop si Wolf jouera. Je pense que Paris va se régaler, et doit surtout se régaler s'ils veulent aller en finale.
Eladj.
Pourquoi tu souris? J'ai pas le droit de sourire. Je sais pas, j'ai.
Non, mais on a radio. Quand tu souris longtemps comme ça, ça crée des blancs.
Ah ouais. Pour moi, il n'y a pas d'obligation. Je sais pas ce que t'appelles obligation de se qualifier.
Assurer
pour moi,
le résultat
pas.
Avec un gros score déjà.
Oui, bon, pour moi, ils n'ont pas l'obligation d'assurer le coup avec un gros score. Maintenant, ils doivent se qualifier, ils doivent les taper aller-retour. Voilà, clairement, ils doivent les taper aller-retour. Aller-retour, il n'y a pas de match nul à l'aller, match retour. Non, aller-retour. Dortmund, c'est faible. Le PSG, c'est au-dessus.
Français.
Clairement, voilà. Maintenant, chacun a sa place. Dortmund, je dis pas qu'ils n'ont pas leur place en demi-finale, mais ils tiennent pas tête au PSG. Et le PSG doivent le montrer clairement. Après avoir collé un bon 4-1 au Barcelonais, juste après, maintenant, Dortmund, ça doit être très rapide.
Mais le 4-1, c'est pas un 4-1... 100% 4-1, on parle quand même d'un 4-1 après un carton rouge.
C'est quoi un 4-1?
Un carton rouge qui allait provoquer, mais qui a changé le match.
C'est quoi un 4-1 100%?
C'est un 4-1 sans un fait de jeu.
Non, c'est celui de Newcastle en fait.
Il y a des faits de jeu partout. Sur des 4-1, il y a une perte de balle. Hop, il y a 0-0, une perte de balle.
Tu vends les Parisiens comme si c'était une magnifique équipe qui avait tapé un 4-1. Non,
absolument pas. Mais tu vois,
il faisait référence au 4-1 de Newcastle en fait.
Non, mais ça fait longtemps.
Ça, c'est un 4-1.
Non, mais ça fait longtemps que je disais qu'on allait battre le FC Barcelone. Que si on sortait contre le Barcelone, c'était une honte. Maintenant, contrairement à Arsenal, c'est sûr que Arsenal ne pourra jamais battre le PSG aujourd'hui. En tout cas,
et comme
je le disais aussi, qu'ils allaient sortir contre le Bayern, ils sont sortis de façon très
lamentable. Non, mais vraiment, on parle de Dortmund.
Ah oui,
exactement. Personnellement,
non, absolument pas.
Ça monte à la tête. Je dis des mots qui sont mal.
Pourquoi personnellement?
Ah là,
j'ai dit Arsenal. Regarde, t'es devenu tout rouge.
Mais non, mais c'est la vérité. Là, tu te vexes.
Absolument pas. Mais non. Vexé. Bon, juste que le PSG
va donner la parole à Lucas.
Arsenal.
Un peu de sagesse, Lucas.
En ce qui me concerne, déjà, je voudrais rappeler que Dortmund a gagné la C1 en 97, et c'est pas le cas de Paris. Donc, faut arrêter de sous-estimer les équipes que Paris va rencontrer. Mais effectivement, je pense que Paris est quand même largement favori. De là à assurer la victoire dès le match aller, c'est pas ce qu'on leur demande. Une demi-finale, c'est aller-retour, c'est 180 minutes. Donc, on leur demande de se qualifier. Ce sera déjà contrat rempli. Après, effectivement, petit bonus, ce serait de leur mettre un tarif à l'aller et au retour.
Ben bon, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, quelle composition d'équipe pour atteindre ce bon résultat, Luis Enrique doit-il aligner, Stéphane?
Oui, bah, moi je pense que là, c'est pas trop gros. Quoi, ça me paraît pas trop compliqué. Après, il y a les choix.
Ah non, mais parce qu'il fait des dingueries aussi parfois. Hein.
Comment?
Il fait des dingueries aussi, hein, Luis Enrique. Hein. Il est beaucoup fantaisiste.
Oui, hein. Mais là, il est quand même un peu. Il est quand même un petit peu revenu. Je pense pas quand même qu'en demi-finale, il va essayer de faire un truc. Ben, on n'est jamais à l'abri. Sinon, pour moi, Après, c'est les choix de certains. Ça sera très probablement. La même équipe qu'à Barcelone. Après, il y a toujours ceux qui aiment bien Fabien Ruiz, ceux qui n'aiment pas, qui pensent que ça joue sur un poste, quoi, ou peut-être deux avec Ramos qui revient très bien. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous très bien devant. Donc, je ne vois pas trop à la place de qui il peut le mettre. Et voilà, quoi. Maintenant, on peut dire qu'il y a un poste où il y a un petit peu une question. Mais pour moi, ça sera la même équipe. Ça sera Vitinha, Zaïre Emery, Fabian Ruiz au milieu, Barcola, Mbappé, Dembélé devant.
L'équipe du retour face au Barça, c'est ça?
Voilà, ouais, la même équipe qu'au retour face à Barcelone. Je pense. Maintenant, effectivement, il peut décider autre chose. Il est à l'entraînement, il le dit lui-même. Hein. Il l'a encore dit là, avant le match dernièrement, il a dit en conférence de presse que lui, il prenait beaucoup en compte ce qui se passait à l'entraînement. Il étudiait beaucoup les joueurs à l'entraînement. Donc, pour ceux qui comprennent, ça veut dire que moi qui n'aime pas, par exemple, entre guillemets, qui ne suis pas un fan de Danilo, que s'il le met, c'est qu'il est bon à l'entraînement. Que ceux qui veulent que Mbappé les joue de temps en temps, bah, s'il ne le met pas, c'est qu'il n'est peut-être pas bon à l'entraînement. Ugarte, il joue moins, c'est peut-être parce qu'il n'est pas trop non plus au niveau à l'entraînement. Je ne sais pas, on n'y est pas. Peut-être que Beraldo est très bon à l'entraînement. Pareil, donc il va le mettre. Pas dans ce match-là. Hein.
Donc Mbappé, il n'est pas souvent bon à l'entraînement, c'est ça?
Comment?
Mbappé n'est pas souvent bon à l'entraînement?
Bah si, non, mais après, on va pas relancer là-dedans, je crois que ça y est.
Non, c'est une question ouverte.
Le point final, il est mis, la gestion de l'effectif, je pense que c'est sur du 19 sur 20 ou du 20 sur 20, Luis Enrique. Donc je pense qu'on peut plus du tout faire le moindre commentaire sur la gestion de son effectif, quoi. Maintenant, après, y a ce qu'on préfère, ce qu'on aimerait avoir nous, les uns les autres et tout. Comme je le disais, pour la première fois, c'est la première fois depuis le Qatar, ou même je pense la première fois dans l'histoire peut-être du PSG, qu'on arrive au début du mois de mai dans cet état-là, c'est-à-dire en finale de la Coupe de France, champion de France, et en demi-finale de la Ligue des Champions. Je pense que ça n'est jamais arrivé. Même le PSG de Laurent Blanc de 2015-2016, qui est l'équipe qui a mis le plus de points et tout, d'abord. Et puis, je rajouterais même qu'il n'a perdu qu'un match. Il n'y a aucune équipe du PSG depuis l'ère Qatari, même je crois depuis toute son histoire d'ailleurs, qui n'a réussi à perdre qu'un match dans une saison. Donc, ce n'est pas le cas, peut-être pas, ça ne sera peut-être pas le cas, hein, parce qu'il reste trois matchs. Hein.
N'est-ce pas?
Ce n'est pas ce qui peut arriver.
Eladj, bon, ton sentiment sur le 11 entrant justement de Luis Enrique, tu ferais quel choix?
Ouais, je ferais le même choix qu'il a fait au retour, pour ne pas polémiquer sur Fabien Ruiz ou pas, parce que voilà, Fabien Ruiz, c'est quelqu'un que moi, je pense qu'il n'est pas au niveau PSG et que je pense qu'il faudra se remplacer très rapidement l'année prochaine. C'est tout.
Sinon, le même 11 entrant pour toi. Lucas?
Même chose, je pense que vu l'entrée de Gonçalo Ramos contre le Havre et vu ce qu'ils montent depuis plusieurs semaines, il y a quand même une vraie question à ce niveau-là. En plus, ça permet de mettre Mbappé à gauche et de le laisser lui en avant-centre. Mais sur la forme du moment, je pense que c'est le seul poste qui pourrait poser question. Et pour moi aussi, il va reconduire le même 11 qu'au retour à Barcelone.
Et toi, Léo?
Moi, je suis d'accord avec mes collègues, mais pour une autre raison. Parce que je pense que le 11 qui a été aligné à Barcelone est plus adapté à jouer contre le Borussia Dortmund qu'il ne l'était contre le Barça.
Pourquoi tu dis ça?
Parce qu'il y a un trio d'attaques qui va pouvoir faire très mal, comme on en a parlé plus tôt. Alors que les défenseurs du Barça, il y a quand même, même Araujo qui a été exclu, est un défenseur rapide, Kubarsi aussi. Là, la défense Schlotterbeck, Zule ou Schlotterbeck, Hummels, ça va laisser des espaces dans le dos. Ils vont aller au contact, mais dès qu'il va y avoir une prise de profondeur, ils vont être sous assistance respiratoire. Donc pour moi, je pense que ça va être beaucoup mieux que contre le Barça même.
Asdin,
comme les copains, et je compte vraiment sur l'attaque parisienne parce que ça va vite devant et la défense de Dortmund, c'est pas trop ça. Et franchement, la défense, l'attaque du Paris Saint-Germain peut faire très très mal en Allemagne.
Alfred, tu penses la même chose aussi, assez optimiste comme les amis là?
Je partage leur avis. Après, il faut être un peu réservé si, au niveau du milieu de terrain, ils arrivent à placer de bonnes balles. Parce que Mbappé, et comme on appelle Colomani, plus Gonzalo, ça peut quand même dégager quelque chose. Surtout, ils sont très athlétiques. Donc, quelque part, il y a Hummels qui prend un peu de lâche. Zule, c'est plus comme avant. Donc, quelque part, voilà, s'il y a des espaces, je pense que ces ailiers-là ne feront pas de cadeaux.
Mel, c'est assez lent, en plus blessé, là, après, incertain, jouleux, assez lourd.
Ça force.
Il y a un boulevard qui s'annonce. Hein.
C'est dans le ramassage, il n'y a rien qui défoie, ou soit qu'il place de bonnes balles à ses attaquants, mais sinon, c'est plus comme avant.
Mon cher Darius.
Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, sauf pour Fabien Ruiz. En vrai, je trouve que là, il faudra un milieu avec.
Et là, dis-toi, on va faire un face-à-face tous les deux.
Ils sont pas copains.
Vous allez faire
on va faire un transfert. On va envoyer Fabien Ruiz chez les Gunners. Et vous nous envoyez Xhaka ou quoi?
Par pitié, non.
Ah, ok, d'accord.
Non, mais moi je pense qu'il faudrait un peu plus d'intensité. Je dis pas que là, il pourrait pas faire le travail. On l'a vu, c'est quand même un joueur qui peut être sérieux, qui a pas beaucoup d'erreurs, même s'il est pas forcément flamboyant. Mais là, je me dis qu'un milieu de terrain avec plus d'intensité, avec plus de vitesse. C'est ça qui pourrait faire une
Ugarte,
vraie différence.
Ugarte.
Moi, je pense Ugarte, ça peut être un choix judicieux. Après, c'est vrai que sous sa forme récente, c'est pas forcément la meilleure image qui monte de lui. Si on le retrouve comme au début de la saison, ça pourrait être intéressant.
Darius, excuse-moi. Le problème, c'est que c'est le problème, et c'est le problème un peu du Paris Saint-Germain, c'est qu'en parler comme ça, c'est bien, mais si tu mets Ugarte dans l'équipe, par exemple, ben, peut-être qu'il va le faire. Hein, c'est ton idée, je la respecte tout à fait. Tu peux le mettre quasiment que devant la défense, quoi.
Et donc, ça me paraît vraiment pas mal.
Vitinha, un endroit où il va être aussi, ça peut être aussi un choix où il va être plus dangereux, machin. Mais tu vas plus avoir le Vitinha assez exceptionnel qu'on voit organiser le jeu de la défense.
Ah, je suis pas d'accord. Tu mets Vitinha en 8 à gauche. Il est doté d'un contre-pressing incroyable. Je pense que pour le jeu de transition là, que cherche Paris et tout, ça peut être une position hyper intéressante.
Tout à fait. Moi, je pense que ça peut être un peu dangereux et modifié. D'ailleurs, s'il fait ça, on est d'accord, comme l'a dit Elhadj tout à l'heure, c'est vrai que c'est un peu le tendon d'Achille de ce milieu. Quoi. On aime beaucoup Zaïre Emery, on aime beaucoup Vitinha, et il manque ce troisième élément. Je suis un peu d'accord avec toi. Maintenant, moi, je pense qu'il peut le faire, justement, quand on parle entre guillemets de dinguerie. C'est ce que, effectivement, peut éventuellement décider de faire Enrique. Et moi, je pense que ça serait une erreur parce que on l'a vu en deuxième mi-temps, je crois que c'était contre la Real Sociedad au match aller. On l'a vu contre le Barça sur les deux matchs, même si le premier match a été beaucoup plus difficile pour Paris, surtout pas chanceux, quoi. Paris n'a pas été chanceux. Mais quand il joue devant la défense, un peu à la Pirlo dans les postes, hein, je compare pas forcément les joueurs. Hein.
Verratti, quoi.
Un peu amélioré et tout, comme il jouait de temps en temps, parce qu'il jouait pas toujours là, Verratti non plus. Je pense que c'est un vrai plus pour le Paris Saint-Germain, quoi.
Il y a que toi qui vois ça, Stéphane, il y a que toi qui vois ça. Franchement, il a aucune qualité de passe, il a pas de finition, il a pas de frappe, il est pas bon.
Il parle de Vitinha,
ok, d'accord. Ah, là, j'ai cru que tu me parlais de Fabien Ruiz, là, j'étais.
Ah, non,
ok, d'accord.
Non, j'ai dit que j'étais d'accord avec toi que.
Même quand ils sont d'accord, ils s'embrouillent les deux. C'est des trucs de malade.
Mais même si tu mets aujourd'hui, le problème, c'est que si tu mets aujourd'hui Ugarte, à ce moment-là, tu modifies ton équipe.
Oui, non, certes, c'est pour ça que je dis que là, je le remettrais. Mais,
moi, tu l'as modifié, mais il ne serait pas en terrain inconnu non plus. Hein.
Pas tous ensemble, les amis.
Dis, moi aussi, on peut être amené à dire ça, surtout au match de début de saison de. Du garter et tout en disant de faire comme ça parce que Vitinha plus loin il est bien mais je pense
mais
que
Stéphane si là il modifie l'équipe il c'est pas en terrain inconnu non plus. Vitinha il a déjà joué à gauche cette saison et oui c'est son poste de prédilection. Ugarte on l'a déjà vu en 6 devant la défense.
C'est une trouvaille.
Mais les amis, moi j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous, comment dire ça, vous avez une idée comme ça des forces aussi de l'adversaire du Borussia Dortmund? C'est bien comme ça, on est en train d'épiloguer sur le cas du Paris Saint-Germain. Mais cette équipe, si elle arrive en demi-finale, elle a forcément aussi des forces. Quelles seraient ces forces-là?
Adeyemi, Sancho, qui revient bien.
Non mais je veux dire collectivement.
Moi, je pense que c'est une très bonne équipe de transition aussi. En vrai, ils peuvent, faire, ils peuvent faire très mal.
Et parce qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre.
Bah, ils ont rien d'autre.
Gros temps faible aussi.
Oui, ils ont énormément d'erreurs dans leur défense. On l'a vu face à l'Atlético. Tous les buts qu'ils concèdent, c'est des erreurs de défense.
Quand même, et pourtant, ils sont passés.
Et pourtant, ils sont passés.
Parce que c'est une équipe qui te rentre dedans quand même, malgré tout.
Bah, ils sont un peu étonnants. Ils sont très, ils ont beaucoup de surprises en eux.
Et si on a bien remarqué cette saison, tous les matchs dans lesquels Paris a eu du mal, notamment face à Newcastle, même en Ligue 1, face à Nice, face à Rennes, face à Lens, à chaque fois qu'une équipe adverse rentre dans le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain est en difficulté. Or, il se trouve que cette équipe, elle joue quasiment sans complexe. Elle te rentre dedans, le Borussia Dortmund.
Oui, mais
est-ce que ça ne va pas être justement, même Newcastle face à Paris, on a vu, Paris a déjoué parce que Newcastle a réussi à rentrer quand même dans cette équipe du Paris Saint-Germain.
Ça n'a rien à voir.
Attends, je vais finir ma question, s'il te plaît. Est-ce que justement, si cette équipe du Borussia Dortmund rentre à fond dans ce match et bouscule les Parisiens, est-ce que ça peut faire déjouer l'équipe de Luis Enrique?
Mais bien sûr, parce que c'est une équipe qui n'a rien à perdre en fait. Ils ne devaient pas être là en début de saison. Là, ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Je ne sais pas si on se rend compte. Ils jouent...
En éliminant l'Atlético de Madrid. Madrid, pardon.
Ils sont là et ils jouent devant leur public le match aller. Ils n'ont rien à perdre. Ils ont des jeunes en attaque. Il y a Sancho qui a la dalle. Adeyemi qui bombarde. Moi, je vous le dis, la défense du Paris Saint-Germain, il faut qu'elle soit prête. Et de toute manière, ils attaquent mieux qu'ils défendent.
Et bien que menée, cette équipe continue de jouer.
Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut bien différencier.
Malika, si je peux me permettre, on en revient exactement à ce que je disais tout à l'heure, quoi, ce que je pense. Je ne pense pas forcément que j'ai
la vérité. T'as coupé la parole à Léo, Stéphane.
C'est pas grave.
Il a dit c'est pas grave, il est gentil.
C'était quoi l'équipe de Newcastle? Qui est-ce qui jouait en sentinelle devant la défense contre Newcastle? Et depuis ces matchs-là, il y a eu une évolution. Il l'avait dit lui-même d'ailleurs, Luis Enrique, mon équipe sera plus forte en février. Bon, ça a peut-être mis un peu plus de temps, mais en tout cas, son équipe, elle est plus forte. Et il y a eu cette évolution-là. Je pense que la trouvaille, la principale trouvaille pour moi, il y a deux points forts pour moi dans cette équipe maintenant, c'est de la progression, c'est Vitinha devant la défense, et notamment tu parles de… Parce que ce n'est pas une équipe, je ne suis pas d'accord avec toi, Nice, ils ont eu beaucoup de chance, ils ont bétonné. Comme ils
j'ai jamais employé le mot chance.
On parle de Dortmund là, Stéphane.
J'ai jamais employé le mot chance, j'ai dit ils te rentrent dedans. Ils ne sont pas forcément aussi talentueux que le Paris Saint-Germain.
C'est moi qui te dis que ce match-là de Nice-Paris Saint-Germain, de Paris Saint-Germain-Nice, je suis beaucoup la Ligue 1, mais en tout cas, cette équipe de Nice, comment elle jouait, c'est pas du tout une équipe qui faisait du jeu, c'est pas du tout une équipe qui allait devant, c'est une équipe qui jouait placée, qui attendait derrière. On l'a vu par exemple un match comme le Havre. Bah,
Stéphane, il y a Lucas qui n'est pas d'accord avec toi qui veut répondre.
Je ne comprends pas pourquoi on parle de Nice, qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Nice n'a rien à voir avec la façon dont Dortmund joue. Dortmund, c'est une équipe, comme on dit, c'est dans la transition. Nice est super défensif. Il y a quand même une intensité. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Azdine. C'est une équipe qui n'a rien à perdre, qui va jouer son va-tout. Ça, on peut le prendre en compte. Alors que Nice, c'est une équipe qui attend son adversaire, qui n'a pas les mêmes flèches. Adeyemi, Sancho, on l'a dit, c'est technique, ça va vite. Voilà, ça, c'est à prendre en compte. Mecha aussi, c'est bon au milieu de terrain. Mais moi, je vois aucun rapport entre Nice et Dortmund, personnellement.
Mais justement, bah oui, donc là, tu réponds à Malik, parce que c'est ce que j'étais en train de faire. C'est ce que j'étais en train de faire, de répondre à Malik qui avait strictement aucun rapport. Et que le Paris Saint-Germain, en plus, a évolué. Si jamais c'était le cas d'une équipe qui rentre dedans, qui joue haut et tout, arrive beaucoup mieux à jouer maintenant, contrairement à ce qu'on avait vu notamment à Newcastle, quand ils étaient pressés, ils n'arrivaient pas à ressortir les ballons. Donc là, ils y arrivent beaucoup mieux. Donc là, je ne parle pas forcément du match contre Dortmund. Je dis, ça n'a strictement rien à voir. La seule défaite du PSG, ou les fois où ils ont été emmerdés, ça n'a rien à voir du tout. Avec peut-être, effectivement, ça se rapproche peut-être un peu plus de Rennes, qui a des très bons attaquants, et quand ils sont venus jouer au parc en plus, qui avait vraiment des très bons joueurs offensifs. Mais sinon, ça n'a strictement rien à voir.
On va prendre, Stéphane, l'avis d'Eladj, justement, par rapport à cette question. Le fait de voir Dortmund rentrer, justement, dans le Paris Saint-Germain. Ah, mais tiens, c'était Léo. Mais attends, laisse Eladj finir, après tu prends la parole si tu veux.
Vas-y, Léo, vas-y. Non, moi, je disais juste que ça n'avait rien à voir, que Dortmund n'ont pas les mêmes forces que Newcastle, du tout. Moi, je regarde Newcastle, je regarde Dortmund, ça n'a rien à voir.
Sauf que Dortmund, en demi-finale, ils étaient dans la même poule.
Oui, c'est dans la même poule. Et
Dortmund en demi-finale, Newcastle est éliminé depuis belle lurette.
Oui, mais nous, on a fait une double confrontation contre Dortmund et on en sort vainqueur. Un match nul, une victoire. Du coup, 2-0 et 1-1 au match retour. Du coup, ce que je disais, et je reprends, là c'est la demi-finale, et comme le PSG aussi ont augmenté leur cursus, même si je ne dis pas que Dortmund c'est devenu mieux, moi je vois Dortmund de l'autre côté, ça n'a rien à voir. Dortmund ne peuvent pas mettre un autant d'intensité que Newcastle l'ont fait à St James Park, c'est impossible. Et même s'ils mettent cette intensité-là, le PSG sont préparés.
T'as vu le match face à l'Atlético Madrid ou pas?
Non, j'ai vu le match face à Leipzig par contre.
Ouais, moi aussi, je l'ai vu.
Ah bon, d'accord.
C'était pas l'équipe.
Là, je te parle des Ticos, ils sont éclatés.
Non, mais franchement, je te parle de Ligue des Champions. Oui, mais je parle pas de championnat local.
D'accord, mais en Ligue des Champions, j'ai vu le match en Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid. Ils reviennent à 2-2 et c'était mené 2-0.
Mais c'est pour te dire quand même qu'il y a un mental.
Il y a une force de caractère.
Mais est-ce que tu vois comment l'Atlético il joue? Est-ce que tu as vu Malik, tu as regardé le match soir?
Mais qui c'est qui te fait déjouer l'Atlético justement?
Non, mais tu as regardé le match soir?
Mais qui fait déjouer
l'Atlético eux-mêmes?
Bon, bah d'accord, c'est ce que
mais
tu
pour veux. Moi, oui, pour moi, c'est pour l'Atlético eux-mêmes qui se sont fait déjouer.
Léo,
bah oui,
Léo, ton sentiment là-dessus?
Personnellement, je pense qu'il y a deux points à noter. Le premier, c'est que le Dortmund de Bundesliga et le Dortmund de Ligue des Champions ne sont pas les mêmes. On parle beaucoup de Dortmund comme une équipe qui presse, qui court, qui aux qualités mentales incroyables, mais il y a aussi des bons joueurs de ballon. Et moi, je pense à un quintet directement. Déjà, le côté gauche, Yann Madsen, Jadon Sancho. Beaucoup de dédoublements, de la vitesse, de la qualité technique. Zabitzer au milieu, qui est capable de multiplier les courses, un profil box-to-box. Julian Brandt, qui est un formidable joueur de football. Ceux qui ne le connaissent pas vont le découvrir. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir des petites vidéos. Et pour finir, Niklas Füllkrug. Alors que lui, on ne parle pas d'un esthète du football, bien évidemment, mais on parle d'un joueur qui, sur chaque ballon, va se donner à 100%. Et ça, il y a un certain défenseur parisien qui n'aime pas vraiment ça. Qu'on lui mette la pression, qu'on lui grimpe sur les épaules dès qu'il y a un ballon dans les airs. Faudra juste se méfier.
Là, tu parles de qui, là?
De Marquinhos. Mais il faudra juste se méfier sans tomber dans l'alarmisme, évidemment. Mais faut pas oublier que le Borussia, oui, a des joueurs de ballon et de bons joueurs de ballon.
Alfred, toi qui suis régulièrement le championnat de la Bundesliga, est-ce que le Borussia Dortmund, est, comme je l'ai dit, est une équipe qui te rentre dedans?
Sur certaines actions, comme des ailiers comme Adeleemi ou Moukoko, oui, ça peut réagir. Ça, il faut le reconnaître. Après, la petite maturité de Sabensa peut faire quelque chose. Donc, pour moi, Julian Brandt, oui, ça fait un bon moment qu'il est dans le jeu. Donc, quelque part, oui. Maintenant, si Paris n'arrive pas à montrer de la suprématie, pour moi, je dis toujours, franchement, ça joue au football, c'est plaisant dans le championnat allemand. Ben là, aujourd'hui, je pense que Paris devrait saisir cette opportunité. Paris ne joue pas face au Barça, ou pas Paris ne joue pas face au Real, ou ne joue pas contre Bayern, mais contre Arsenal, ou contre Chelsea. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est une question de suprématie mentale que Paris doit... C'est d'entrée du jeu qu'il faut s'imposer. Maintenant, si Dortmund arrive à contrôler le ballon pendant 20 minutes, qu'il crée du danger, quelque part, ce serait la faute de Paris. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que dans un match de football... Les 15 premières minutes sont synonymes de détermination. Il faut être en possession de ballon, au moins marquer un but pendant les 10 minutes et gérer les 15 minutes. Pour dire oui, on domine, on a le ballon, on fait le jeu. Mais si Paris n'arrive pas à montrer, c'est parce que ça fait... J'ai toujours dit, pourquoi je soutiens Paris? Paris n'est pas nouveau, Paris n'est pas novice. Elle perd souvent, elle est toujours présente, mais vers la fin, c'est la déception. Elle se bat... Mais le résultat final, il n'y a rien.
Plus de contrôle, ouais.
Mazdine, tu es d'accord avec Alfred? Pour lui, si Paris joue à son niveau, il n'y a pas photo.
Ben oui, c'est le Paris Saint-Germain. Mbappé, Dembélé, c'est une attaque de folie, des joueurs de classe mondiale. C'est le Paris Saint-Germain quand même. Et en face, c'est Dortmund. C'est vrai que c'est pas le Real, c'est pas City, etc. Et c'est vrai que c'est dans la tête aussi que ça se joue, parce que ce soit en début de match ou en fin de match, je pense qu'ils doivent jouer 90 minutes, les Parisiens en Allemagne. Ils ne doivent pas laisser une minute. Vas-y.
Fais une comparaison. Paris ne joue pas contre des clubs italiens qui sont rigoureux, qui ne lâchent rien. Même s'ils ne sont pas là, l'Inter, la Juve, c'est des matchs de rendez-vous. Ils ne feront pas de cadeau à Paris. Mais ils jouent contre un club, je dirais, pas un petit club, mais ça reste moyen à sa portée. Avec les atouts que Paris a, je pense que si ce n'est pas aujourd'hui, ce ne serait pas demain.
Asdine, je te laisse terminer.
Ouais, de toute manière, c'est dans la tête que Paris, hein. On l'a vu les dernières années en Ligue des Champions, à chaque fois, c'était dans la tête, hein. C'était pas techniquement, c'était pas dans les jambes que ça se jouait, c'était plutôt dans la tête.
On finit avec Darius.
Moi, je pense que un truc qui peut faire du mal à Paris, c'est sa non-capacité, on va dire, sa non-compétence à défendre les coups de pied arrêtés. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut leur jouer des tours. Et on l'a dit avec Fulcrux, par exemple, c'est vraiment un battant, ce mec est dans les airs, il est très très bon. Je pense que ça, c'est un mauvais coup que le PSG doit faire gaffe, en fait, au coup de pied arrêté. Ils ont des baisses de concentration. Et ça leur arrive, voilà, pendant 10 minutes, de un peu baisser la tête et d'oublier en fait qu'ils sont dans un stade, dans un moment hyper important. Et je pense que ça peut leur jouer des tours à une équipe qui est un peu imprévisible et qui a un peu des moments de folie. Après, moi, je vois pas pourquoi Paris, enfin dans vos têtes, part gagnant à ce point-là. C'est pas une équipe qui a confirmé en Europe. C'est pas une équipe qui a cette histoire sur laquelle ils peuvent se reposer, comme là le Real, comme là le Bayern. Il y a tout à faire. L'histoire, elle est pour Paris, elle n'est pas encore écrite. Il faut l'écrire.
Et franchement, tant mieux qu'ils partent pas gagnant. On l'a vu contre Newcastle en phase de poule. Ils sont arrivés tranquilles, 4-1, allez hop.
Voilà. Donc là, je pense que vous vous dites Paris, tout va se jouer dans le statut et tout. Vous dites en face, c'est pas un Bayern, c'est pas un Real. Je pense que Dortmund, ils disent la même chose. En face, c'est pas un Real, c'est pas un Bayern. Il y a tout à jouer. Donc je pense qu'il faut rester sérieux, il faut rester humble et ça va le faire.
Et concentré surtout. Dernier tour de table par rapport à cette première demi-finale, hein, Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund, plus précisément Dortmund PSG, c'est bien ça. Les amis, pronostics de ce match, Lucas.
Début d'écart pour Paris, 2-0 ou 3-1.
Eladj.
2-1 pour le PSG.
Ah, je pensais que tu allais donner un score plus lourd.
Non,
Léo.
Retour.
Ouais, une victoire 3-1 pour le PSG aussi.
3-1 pour le PSG.
Ouais.
Alfred.
2-1.
2-1 pour le PSG.
Je rejoins le copain Eladj, 2-1.
2-1 pour le PSG aussi, Darius.
Non, pas souvent que je suis d'accord avec Eladj, mais 2-1 aussi pour le PSG.
Quand même. Ah, mais en fait, il n'y a aucune retenue ici. Peut-être avec Stéphane.
Ou des buts.
Ouais, t'as peut-être raison, Stéphane. Je pense qu'il y aura beaucoup de buts dans ce match. Hein. Et puis, notre ami Abou, tu nous dis quoi? 2-0 pour où? Pour le PSG, pour Dortmund? Ah, mais 2-0.
C'est un Marseillais, comme d'hab.
Deuxième demi-finale, les amis. C'est le Real Madrid qui va être opposé au Bayern Munich. Oh là 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 là, c'est un grand match, encore une fois. Les hommes de Carlo Ancelotti peuvent-ils se faire surprendre? Est-ce que vous croyez à une surprise, les amis, de voir le Bayern triompher du Real? Ça peut arriver, Léon ?
Bien sûr que ça peut arriver.
Lucas, plutôt.
Enfin, il y a quand même quelques équipes qui n'ont pas de complexe à avoir contre le Real Madrid. Le Bayern Munich en fait partie. C'est une des rares équipes à avoir vraiment une histoire européenne qui est très glorieuse, à avoir eu des grands joueurs. Là, cette année, ils sont un peu plus en difficulté. Mais Tuchel, ça reste un excellent coach. Moi, je pense que le Real devrait logiquement l'emporter. Mais je pense que le Bayern a toutes les raisons d'y croire et il ne se part pas vaincu. Pas du tout.
Et toi, Eladj ?
Ah, moi, je pense que Tuchel peut le faire. Tuchel, c'est vraiment...
Ça m'étonne de toi.
Pourquoi?
Mais je sais que t'es à fond dans le Real.
Ouais, non, mais c'est... J'ai fait un rêve, mais je vous dirai pas ce que j'ai fait. J'ai fait un rêve, mais je vous dirai pas...
Eladj Luther King.
Oh non, mais c'est vrai. Mais du coup, non, je pense que Tuchel, moi, c'est Tuchel, il me fait très, très peur avec le Bayern. Hein. C'est un magicien incompris.
D'ailleurs, il y a une pétition des supporters, là, hein, qui veulent finalement qu'il reste, hein.
Ah bon?
Ah ouais. Oui.
Ah, au niveau
de l'Allemagne.
Mais en tout cas, moi je sais que Tuchel c'est vraiment un génie incompris. Et du coup, j'ai vraiment peur que Tuchel fasse un mauvais coup au Real Madrid. Et je pense que c'est possible. Et en tout cas, il devrait s'en méfier.
Et toi, Léo?
Moi, je pense en effet que ça va être un match plus serré que ce qu'on peut penser. Parce que le Bayern, c'est quand même un club, un géant européen qui a une histoire européenne. Après, aussi, tout dépendra des retours et des absences. Puisque Sané et Upamecano sont encore incertains. Niabri sera là. Tuchel a même dit aujourd'hui qu'il marquerait. Ancelotti lui a répondu que Vinicius avait aussi de fortes chances de marquer.
C'est joli ça.
Toujours très calme.
Moi, je kiffe. On droit dit deux boxeurs.
Le Bayern Real, de toute façon, c'est une grande affiche entre deux géants européens. Deux des plus grands clubs européens d'ailleurs. Donc je pense que ça va nous offrir.
C'est une finale avant la lettre.
Ouais. Et je pense. Ouais, que ça va peut-être même être une meilleure double confrontation que PSG Dortmund. En tout cas, en termes de football.
Sur le papier. Après, il faut voir les matchs.
Toujours.
Parce qu'après, si c'est pour venir bétonner derrière, on ne sait jamais. avec Ancelotti. Hein.
Non, contre City. À part City, il n'y a personne qui fait peur.
Asdin.
Écoutez, c'est un match de folie. Hein. Franchement, c'est pas le Bayern Real de 2013-2014 avec CR7, etc. Mais bon,
C'est, mais il y a Vinicius reste... aujourd'hui.
Oui,
hein,
ça reste des
pas...
équipes.
C'est pas mauvais. Hein,
ça reste des équipes.
CR7 dans la même phrase. Que ah oui, un peu de respect, Malik.
Ça reste la crème de la crème. Voilà, c'est de la classe mondiale. Et je pense que voilà, le Bayern, ils n'ont rien à perdre. Il n'y a pas de championnat. C'est difficile dans le club. Mais là, ils sont un peu en confiance avec deux victoires. Et je pense que voilà, ils ont rien à perdre. Ils sont un peu dans la même situation que Dortmund. Ils sont là, ok, bon, bah maintenant faut le faire. On est face au Real et on va peut-être aller en finale. Donc Tuchel, pourquoi pas.
Alfred, est-ce que tu penses que la poisse Harry Kane là va encore envoyer le Bayern vers une défaite encore une fois?
Faut être honnête sur soi-même. Vous savez, moi je suis un fervent supporter du Bayern, mais Harry Kane, c'est vrai, c'est un grand attaquant. Mais franchement, face à des attaquants comme je sais pas. Vinicius ou comment il s'appelle l'autre là,
Rodrigo.
Même Bellingham, on peut le considérer comme un attaquant désormais.
Bellingham, je pense que Harry Kane, franchement, moi je suis beaucoup déçu parce que 100 millions pour lui, en tout cas dans le championnat allemand, il marque certes, mais il peut mieux faire que ça.
Non,
Harry Kane, aujourd'hui, c'est juste le nom. Parce qu'il y a des joueurs comme, je ne sais pas, Coman, Gnabry, Sané, qui se blessent régulièrement. Mais je dis une chose, Harry Kane, parfois, il est face à des petits défenseurs, il n'arrive pas à réagir. Dès qu'il a un bon ballon, oui, il va marquer. Mais quand vous faites référence, par exemple...
C'est ce qu'on lui demande, non ?
Quand vous faites référence, par exemple, au trio d'avant, Robben, Ribéry, mais ça dégage quelque chose, Lewandowski, il est parfois obligé d'attendre. Tu vois ce que je dis? Donc pour moi, je dis une chose, franchement...
Donc tu es en train de dire que c'est Harry Kane qui est mal accompagné?
Ah, il dit que c'est un flop, là.
Parce que moi, je mets...
Honnêtement, il n'a pas dit que c'est un flop.
Avec ce que tu dis,
non, je ne dis pas que
non, mais avec ce que tu dis, je mets Harry Kane à la place de Lewandowski, c'est plutôt Ribéry et Robben, par exemple, qui n'ont peut-être pas, entre guillemets, été remplacés. Sinon, Harry Kane, il fait ses matchs, il marque ses buts, il est payé pour ça.
Le départ de ces deux-là, Ribéry et Robben, c'était Gnabry et Leroy Sané qui devaient prendre la place.
Mais ils n'ont pas le niveau de ces deux
précédés.
Maintenant,
ils étaient encore jeunes. Mais aujourd'hui, moi, j'ai une chose. Pour moi, jusqu'à aujourd'hui, le Bayern n'est pas rassurant. Qu'on soit honnête.
Donc, tu vois le Real s'imposer.
Le Bayern n'est pas... Non, je ne dis pas que le Real va se qualifier. Le Bayern n'est pas rassurant, puisque la semaine dernière... On a vu face à un petit club, comme face à Francfort, ou même, voilà le but que. Après, mais, peut-être il y a eu un rebond, mais certes.
Donc, quand tu dis que le vestiaire a lâché Tourelle.
Ah oui, après sa façon de manager le club, c'était pas ça, il faut reconnaître. Il fait des recrutements qui n'ont rien à voir, demande beaucoup de joueurs importants. Le Bayern a une identité forte qui est là, qui mise sur un milieu de terrain. D'accord ? Il y a des joueurs. Vous savez, j'ai dit une chose, on recrute par exemple le Coréen. Mais à un certain moment donné, c'est un stopper. Mais si, par exemple, je dis une chose, Alphonse Davies, qui lui est ailier, qui est transformé par Hansi Flick en tant que latéral gauche, pourquoi lui faire pas pareil? C'est ça qu'on appelle un entraîneur.
Davies, il est beaucoup en dessous. Moi, c'est ce que je dis, hein, Tourelle. Voilà. Attends, excuse-moi, je vais t'apporter un peu d'eau à ton moulin, mais sur le cas de Davies, il est un peu en dessous. Avec son problème de contrat, il ne sait pas s'il veut aller, s'il ne veut pas y aller, eux qui lui mettent la pression dessus, il n'est pas dedans, Davies.
Oui, mais clairement. T'es là pour faire ton job.
Mais c'est ce qu'il fait, il fait son job. S'il ne met pas Davies, c'est qu'il semble que Davies ne fait pas des très bonnes prestations. Davies, ces derniers temps, il n'a pas fait de bonnes prestations. Du coup, moi, je pense, et comme je disais juste avant, Tourelle, c'est un génie incompris. Il est beaucoup critiqué, mais il fait avec ce qu'il a. Il est arrivé.
Pourquoi il a poussé le petit Bosniak à partir à Leverkusen?
C'est ça.
Comment il s'appelle le latéral droit?
Il l'a pas poussé. Il voulait partir.
Alfred.
Alfred.
Restons dans la Ligue des Champions.
Tu vois Harry Kane. Ok, tu peux dire. Moi, je comprends ce que tu dis. Je vois Harry Kane, je kiffe Harry Kane. Pour moi, c'est de cette décennie.
Potentiel ballon d'or. Hein.
Non, pour moi, c'est le meilleur attaquant de cette décennie. Hein. Meilleur que Karim Benzema, meilleur que Luis Suarez. Pour moi, selon moi, je vous le dis, il sait tout faire. Coup franc, il tire de la tête, il met truc. J'ai vu personne faire ça. Voilà, pour moi, c'est dans ce registre-là où je te dis, c'est un meilleur attaquant dans ce sens-là. Voilà, pourtant, je suis fan du Real, il n'y a aucun souci, mais Harry Kane, vraiment, je le kiffe. Mais je comprends dans le sens où, dans les gros matchs, il doit être là. Et dans les gros matchs, il est trop peu là. Contre Arsenal, il met juste un seul but. Or qu'il doit mettre aller-retour, il doit marquer minimum doublé.
Moi, je regarde le match. Arsenal, hein.
Non, comment ?
Il fait un bon match, hein. Il fait un très bon match retour, non, hein, contre Arsenal.
Il marque...
hein.
Je te dis juste qu'il doit être plus.
Je parle pas que du penalty. Hein.
Non, moi, je te dis juste qu'il doit être plus décisif. Il doit être plus décisif. Dans les matchs comme ça.
Moi, je trouve qu'il est un peu la chachotte dans les grands rendez-vous.
Je te parle que ça soit contre Arsenal ou juste avant. Je sais pas, ils ont eu qui. Mais dans les gros matchs.
C'est même pour ça qu'il avait loupé le penalty face à la France.
Oui,
ça il est un peu la chachotte dans les grands rendez-vous. Comme tout le monde, c'est ce que je lui reproche.
Sincèrement,
alors,
donc,
pour finir, mon cher Alfred, ton pronostic.
Je pense que le Bayern va limiter les dégâts au match aller. Après, la qualification, elle va se jouer à Madrid.
Darius.
Il y a tellement de choses qui ont été dites là, je pense que je vais en oublier plein de trucs, mais j'ai été outragé.
Non, mais t'es pas obligé de répondre, donne ton avis.
Non, mais déjà, je vais commencer par Harry Kane là, parce que c'est n'importe quoi de dire que ce mec c'est pas le meilleur neuf là de cette année. Genre vraiment, en plus de loin, genre au-delà de juste de ces plus de 30 buts qu'il met, alors qu'il reste encore bien une petite dizaine de matchs là, plus de 30 buts c'est quand même pas rien. C'est combien 11 passes décisives?
Il a 35 buts en 31 matchs de Bundesliga et deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 7 buts.
Moi, je sais pas si on peut trouver mieux, Alfred. Hein, t'es un peu
déjà,
dur.
C'est des stats terrifiantes. Ensuite, pour les gros matchs, j'entends. Mais le truc, c'est que peut-être qu'il manque un peu de décisif dans les gros matchs, j'entends. Mais Harry Kane, c'est un joueur qui peut laisser sa place aux autres, qui peut faire jouer les autres. Il est un facilitateur. C'est un super pivot. Il est doté d'un physique, mais c'est un gladiateur, il est trop fort, il est tellement intelligent.
T'aurais voulu même qu'il aille à Arsenal finalement.
C'est un fan d'Arsenal en plus à la base. Mais non, il nous a trop brisé le cœur pour pas que j'admette que c'est vraiment un joueur extraordinaire. Dire qu'il n'est pas aussi bon que.
Revenons sur la Ligue des Champions, les amis, parce que là on se perd là.
Ok, bon, et pour revenir sur cette confrontation, ouais. Moi je pense qu'en vrai, tout est à jouer pour les deux équipes. Je pense que c'est pas un grand Bayern, mais c'est pas forcément un très grand Real non plus. C'est deux équipes qui savent bien défendre. Je pense surtout au Real, ils ont pu cadenasser City vraiment très sérieusement. Et il y a plein de choses à faire, je pense que ça va être un match pas forcément ouvert, mais tout est à jouer pour les deux équipes. Je pense que niveau défense aussi, là c'est très sérieux côté Bayern. On a vu comment ils ont pu vraiment faire une prise à deux, mais vraiment méchante sur Saka, là, comment il s'appelle, Guerrero et Mazraoui. Je pense que s'ils relancent ça sur Rodrigo, on va pas le voir et mine de rien ça fait pas beaucoup d'attaquants qui restent en vrai faut voir. Je pense que le Bayern a vraiment moyen de se qualifier s'il gagne le match aller.
Léo, ton sentiment et ton pronostic?
Difficile à dire. Juste pour répondre à quelque chose, on comparait Harry Kane à Vinicius, Rodrigo.
Non, les amis, allons-y directement sur l'opposition.
Il leur apprend le football aujourd'hui.
Laissons les individualités.
C'est tout ce que je voulais dire. Dis bien. Mais le Bayern, je vois le Bayern peut-être gagner 1-0 à l'aller, mais perdre au Bernabeu au retour.
Donc tu vois le Real ne pas marquer de but?
Non, pas à l'aller. Enfin, pas à l'extérieur plutôt.
Eladj?
Moi, je vois un match nul 2-2 à l'aller.
Ah, donc tu vois le Real concéder autant de buts? Malgré tout.
Je pense que le jeu sera ouvert. Moi, je pense que le jeu va être ouvert. Là, c'est match aller, souvent c'est ouvert. C'est à l'Allianz Arena. Le Bayern, ils encaissent pas mal de buts. Hein. Même cette année, on peut le voir. Ils encaissent pas mal de buts. Même si le Real défend assez bien, dans les matchs comme ça, ils ouvrent. Hein. Moi, je pense que ça va se jouer sur des transitions rapides. Harry Kane, il peut mettre un petit but avec un autre petit but de Gnabry, comme Tourelle le dit. Je pense que ça peut aller très vite.
Lucas?
Je pense que le Bayern va faire le boulot. Il va gagner 2-1.
Ah, quand même. Asdin.
Ah, écoutez, pour moi, c'est le Real. Je pense qu'il va même passer. Donc, pour l'instant, je pense qu'il y aura peut-être un 2-2 avec un match ouvert, effectivement. Et de toute façon, le Real, même s'ils prennent des buts, ils s'en fichent. Ils vont en attaque. Donc, ils n'hésitent pas à enclencher la deuxième, la troisième, la quatrième. Et ça leur dérange pas de prendre des buts. Ils en mettront aussi. Donc, 2-2 pour moi.
2-2 pour toi. Stéphane.
Je me suis endormi, moi. Là.
C'est Harry Kane.
Tu regardes la Ligue 1. Comment
tu entrevois justement cette demi-finale?
J'ai du mal à être objectif.
Le Bayern, je sais que t'es pas très fan du Real, mais bon.
Je les vois pas jouer. S'ils essayent de jouer, à mon avis, ils vont se faire planté, donc à mon avis il va pas faire.
Tu rigoles.
Aussi pire Stéphane. Qu'il a fait.
Non, mais viens, on arrête Stéphane. Stéphane, viens, on arrête. On arrête Stéphane.
Laisse lui donner son avis, s'il te plaît. Elle a dit.
Hein, moi je dis, je pense qu'ils vont pas jouer, donc je miserai sur un 0-0.
0-0 carrément. Bah écoute, pourquoi pas. On a les podcasts, hein, les amis. On va descendre d'un cran, on va partir du côté de la Ligue Europa. On va parler de l'Olympique de Marseille face à l'Atalanta et puis de l'AS Rome face au Bayern Leverkusen. Alors les amis, OM Atalanta, comment entrevoyez-vous cette opposition? Allez, Lucas.
Je l'avais dit la semaine dernière déjà, l'Atalanta, c'est une très belle équipe. Gasperini fait très bien jouer son équipe. Je ne sais pas si vous les avez vus en Coupe d'Italie cette semaine contre la Fiorentina. Ils les ont vraiment explosés. C'était assez impressionnant à voir. Toutefois, je ne les vois pas foncièrement supérieurs à Benfica, au Shakhtar ou à Villarreal, qui sont des équipes, on va dire, Europa League. Je pense que Marseille a un supplément d'âme, entre guillemets, cette année, qu'ils l'ont un petit peu prouvé, que c'est pour ça qu'ils sont là. Et moi, je vois Marseille se qualifier, et donc faire le boulot dès le match aller.
Asdin ?
Ouais, évidemment, j'espère sincèrement une qualification pour Marseille et le football français, tout d'abord. Évidemment, on espère, pourquoi pas, l'OM en finale. Mais je pense que ça va être vraiment difficile face à une équipe de l'Atalanta qui est vraiment pas mal. Ils ont gagné 2-0 ce week-end, ils sont en confiance. C'est une équipe joueuse, quoi. Et je pense que si on se repose sur les supporters, sur la ferveur marseillaise, à un moment difficile.
Scamacca est incertain, ça pourrait changer beaucoup de choses.
Ouais, donc à un moment difficile. Donc évidemment, on espère l'OM, mais on verra.
Alfred, l'OM joue pas bien, mais arrive à passer quand même à chaque fois.
Je veux rejoindre un peu Asdin. À Marseille, c'est aujourd'hui c'est bon, demain c'est n'importe quoi. C'est pas rassurant, c'est pas convaincant. Donc quelque part, je ne peux pas dire que Marseille partira confiant. Après, espérons de voir si réellement ce qui s'est passé la semaine dernière, ça peut continuer. Si,
bon, même hier.
Hier. Donc c'est ça le problème, c'est que avec ma foi tous ces supporters, on n'a pas de bons résultats. On se demande. Ouais. C'est un peu ça qui fait que moi, voilà, je ne sais pas.
Là, il y a Moumbagna qui n'est pas suspendu pour le coup.
donc pour l'instant, moi, je ne sais pas. Mais Marseille, voilà, je ne sais pas. Demain, j'ouvre ma fenêtre, demain, je la ferme. Je ne sais pas.
Darius.
Moi, je pense que ça va être compliqué pour les Marseillais. On est face quand même à une équipe qui est très courageuse, qui a quand même mis 3-0 à Anfield. Liverpool à Anfield, ce n'est pas rien. Si on n'a pas peur à Anfield, c'est pas sûr qu'on ait peur au Vélodrome. Et on part quand même sur une équipe de Marseille.
Ne laisse pas distraire par Abou, s'il te plaît.
Non, mais je le vois même pas là, mais je suis sûr qu'il est pas très content en écoutant ce que je suis en train de dire.
Il est en train de faire des grands gestes là.
Ouais. Non, mais voilà, c'est pas non plus un grand Marseille. Il passe contre Benfica, mais ça aurait pu être d'un sens comme de l'autre. Donc moi, je serais pas étonné de voir l'Atalanta remporter la confrontation.
Léo.
Je pense que l'Atalanta va se qualifier. Ce que j'ai vu hier de Marseille contre Lens m'a pas rassuré. Ils m'ont l'air très fatigués. À la 65e hier, ils étaient à bout de souffle. L'Atalanta, c'est une équipe qui impose un défi physique important, qui joue bien au ballon aussi, parce que ça fait 5-6 ans que Gasperini est là, qu'il a le temps de poser ses idées. Et je pense même que l'OM risque de tout perdre en l'espace d'une semaine et demie, parce qu'il y a aussi la course à la 7e place, voire à la 6e, et que deux matchs de comptant pour les demi-finales face à une équipe qui va te pousser à courir, tu vas forcément y laisser des plumes, et ça risque de faire les affaires de l'OL et de Lens.
Lague.
Bon, moi je pense que Marseille vont sortir face à l'Atalanta. Après, maintenant, vous allez me dire, à chaque fois, je rabâche la même chose. Mais Abou, qui est persuadé que l'OM vont gagner, hein, il est persuadé carrément, il a pris son billet, il y va. Hein. Je lui ai dit de ne pas faire cette connerie, mais il y tient vraiment. Du coup, il verra en live la défaite de l'OM. En tout cas, je pense pas à l'aller, peut-être à l'aller un petit match nul. Mais bon, on sait qu'ils font beaucoup de contre-performance à domicile. L'OM, du coup.
Non, l'OM a de bons résultats cette année quand même à la maison. Je crois que c'est la troisième équipe de Ligue 1 à avoir d'aussi bons résultats à la maison après Lille et le Paris Saint-Germain.
Mais franchement, c'est un chaudron, mais moi je pense que ça ne va pas faire grand-chose. Un match nul peut-être à l'aller ou une petite victoire de l'Atalanta, et au retour, l'Atalanta, ils vont leur mettre une petite valise. Hein.
Il a dit petite valise.
Ouais, petite valise, c'est un plus deux minimum.
Lucas.
Du coup, moi j'ai déjà dit.
Mais t'as réagi. Non, c'est pas toi. Qui c'est qui n'a pas réagi là-dessus?
Tout le monde a réagi, je crois.
Tout le monde a réagi. Stéphane n'a pas réagi, je pense, sur l'OM.
Non, moi j'ai pas réagi. Moi je pense que c'est hyper compliqué de pronostiquer les résultats de l'OM. Et c'est impossible de dire, par exemple, ce qu'on a vu hier ou à peu près ça, parce que c'est impossible. Moi, je pense que l'OM a largement les moyens de passer, parce qu'ils ont largement les moyens de passer, parce qu'effectivement, ils ont d'abord un super joueur, même si, par exemple, hier, bon, il n'a pas été très chanceux, je ne trouve pas qu'il a été extraordinaire, Aubameyang, mais ils ont un super joueur, et puis ils ont quelque chose en plus, mais ça, pour moi, ça n'a rien à voir. Moi, vous savez, je l'ai toujours dit ici, je suis complètement contre le principe de dire oui avec le public, les pouces et tout ça. Donc effectivement, peut-être eux vont le dire, les publics, les pouces et tout, mais je pense qu'ils ont quelque chose en plus, comme par exemple, ils ont eu à Benfica dans les 20 dernières minutes ou les 25 dernières minutes, quelque chose aussi qui leur a permis peut-être aussi de marquer à Villarreal alors qu'ils étaient très mal. Non, moi, je sens que, moi, je dis que c'est tout à fait…
Les planètes s'alignent pour Marseille, malgré tout.
50 parce qu'on est en demi-finale quand même.
Alors, les amis, à présent, on va parler de l'AS Rome hein, face au Bayer Leverkusen. Asdin.
Ouais, le Bayer Leverkusen, franchement, on ne sait pas quoi penser avec cette équipe. On se dit, bon, ça allait, c'est bon, c'est la fin de saison, ils sont fatigués. Mais on ne peut que y croire, en fait, avec eux.
Il y a un joli turnover hein, au niveau du Bayer Leverkusen. Hein.
Ouais. Et surtout, Xabi Alonso qui gère très, très bien cette équipe d'une main de maître. Et moi, je les vois se qualifier, franchement, face à l'AS Rome. Même si De Rossi a aussi une belle équipe et il a su remanier cette équipe romaine. Mais ouais, je vois le Bayern Leverkusen. En fait, j'arrive pas à avoir un autre scénario, tout simplement.
Alfred ?
Alors, je partagerai pas ton avis parce que bon, moi, c'est vrai que Leverkusen fait un club de révélation cette année. Mais il y a aussi l'expérience de la Roma. Donc, il faut faire avec. Donc, pour moi, je pense que la Roma devrait se qualifier. Ils ont des grands défenseurs. S'il y a de la rigueur derrière, je pense qu'elle devrait se qualifier. Après, comme je dis, je ne pense pas qu'elle laisserait la chance à l'évacuation de pouvoir gagner. Je ne crois pas.
Tu m'as convaincu, ça y est.
Darius.
Bah, en vrai, je suis un peu d'accord avec Alfred. Moi, la Roma, je la vois un peu comme l'équipe briseuse de rêve cette année. Ils sont pas marrants.
Ah, italien,
et,
hein, italien.
Ouais, franchement, ils sont durs, ils sont méchants et tout. Et ça ne m'étonnerait pas de voir l'Everkusen avoir leur première défaite de la saison. Si c'est très triste. Mais ouais, je les vois bien les contenir.
J'ai l'impression que Lucas pense pas la même chose.
Non, parce que moi j'ai envie d'y croire en plus. J'aimerais croire à la première défaite de Leverkusen face à la Roma. Mais j'ai regardé un petit peu la Roma ce week-end contre Naples. C'était soporifique. C'est pas la première fois que l'AS Roma m'endort quasiment cette année. Et je trouve, comme Azine, que Xabi Alonso gère son effectif d'une main de naître. Il y a Boniface, l'attaquant nigérien, qui vient de revenir après sa blessure qu'il avait éloignée de la CAN. Ça donne encore plus de d'allons offensifs à l'équipe. Virs c'est toujours là, les latéraux sont super forts. Donc je pense que Leverkusen va aller jusqu'en finale et n'a rien à craindre face à l'AS Roma. En fait.
Juste pour rebondir très rapidement, moi je pense que c'est justement ça la force de la Roma. C'est cet endormissement, c'est le fait qu'il soit soporifique.
J'ai envie d'y croire, mais je crois pas. Même De Rossi, la belle histoire, le coach qui a joué dans l'équipe, etc. Mais je pense que Leverkusen va le faire.
Elad ?
Oui, bah moi je vois un peu l'AS Rome et avec un Paulo Dybala. Moi je pense juste que dernièrement là ils ont perdu Lukaku qui pèse pas mal sur la défense. Du coup je pense que c'est ce qui fait que ça me fait dire. Et de toute façon moi je pense que Leverkusen va terminer la saison invaincu. Du coup je pense que Leverkusen vont passer face à l'AS Roma, mais ça sera pas aussi facile qu'on le croit.
Et toi?
Moi je pense que la Roma va se qualifier et faire donc tomber le Bayer. Le Bayer depuis son sacre et c'est légitime, je les trouve un petit peu moins dominants, même s'ils ont encore été héroïques ce week-end. Il reste sur 3 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Ils affrontent l'Eintracht Francfort ce week-end. Ils recevront la Roma au retour. Et je pense que la Roma, à l'aller dans son stade qui est au Stadio Olimpico, qui est une des plus chaudes ambiances d'Italie en plus. Ça va pousser et je pense que ça va être un véritable piège pour les Leverkusen et qu'ils vont perdre sur la plus petite démarche.
Stéphane Desenclos, ton sentiment ?
Je vois quand même les Leverkusen passer parce qu'effectivement, peut-être que. Bon, déjà, les Leverkusen, ils ont un génie dans leur équipe, donc ça aide d'avoir un génie dans son équipe.
C'est qui et le coach ?
Wirtz. Les deux.
Et puis donc,
Dybala aussi.
Il y a aussi un Dybala.
Non, mais Dybala aussi. Hein.
Dybala, c'est
une sacrée saison en plus.
Il y a Dybala, mais je pense que.
Lukaku
j'adore,
aussi.
J'adore.
Non, Lukaku, il est blessé.
Comment il s'appelle l'attaquant anglais?
C'est pour ça que je dis.
On laisse Stéphane finir, s'il vous plaît.
Abraham est revenu, ouais.
J'adore ce joueur, Dybala. Mais ce que j'allais dire surtout, c'était une petite parenthèse que je disais par. Je pense que le Vercel, ils ont quand même un collectif, ils ont quand même un collectif meilleur, ce qui d'ailleurs leur permet d'en être là où ils sont aujourd'hui. Donc je les vois quand même passer. Mais je pense que ça va pas être, ça va pas être facile. Peut-être même, ça se trouve. Une des deux équipes sera éliminée sans avoir perdu de match. Donc ça va être très très costaud. C'est quand même un peu la finale avant la lettre et ça va être très chaud. Mais je pense quand même qu'avec le karma de Leverkusen, ça va les faire passer.
Donc sur le plateau ici, vous êtes assez partagé hein, quelque ouais, part, hein, ouais, ouais, assez assez équilibré dans cette opposition. Les amis, à présent, on va basculer dans la Ligue 1. Retour sur une journée fertile en termes de buts, en tout cas le week-end de la Ligue 1. Quel résultat a retenu votre attention, les amis? Il y a eu beaucoup de buts quand même, hein. Asdin.
Ouais, bah moi c'était le 3-3, hein. PSG, Le Havre samedi. Le Havre ne se sont pas laissés faire. Et franchement, très beau match. Et comme tu l'as dit, très très belle journée de Ligue 1.
Il y a Bologna, l'entraîneur de Metz, qui a dit que les Parisiens avaient levé le pied.
Un peu, c'est vrai. Pas faux, mais je trouve que Paris, ils savaient déjà en fait qu'ils étaient champions et ils se concentraient déjà sur la Ligue des Champions. Ils se sont dit bon, voilà, c'est le Havre, avec tout le respect que j'ai pour le Havre évidemment, mais très très belle journée de Ligue 1. Toutes les équipes ont marqué, ça fait plaisir et franchement la Ligue 1, pas mal. Ouais.
Alfred, t'as un match qui t'a impressionné? Dans le micro, s'il te plaît.
Brest, ils ont gagné, si je ne me trompe pas.
Ouais, 5-4.
Donc, je suis toujours, revient de petit à petit. Parfois, elle disparaît, parfois. Voilà, donc je pense que Brest maintient sa position. Je crois qu'ils doivent être deuxième ou troisième, si je ne me trompe pas.
Troisième.
Darius,
J'allais aussi dire Brest, mais parce que c'est quand même un match avec 9 buts, quand même pas négligeable. Mais du coup, pour changer, je dirais Lyon, qui continue à confirmer. Bah, désolé, sur les sourcils français de l'autre côté. Mais Lyon, c'est quand même cool, là, comment ils ont pu retourner leur saison. Et contre Monaco, quand même, dauphin de la Ligue 1, donc c'est pas rien.
Et Monaco décevant quand même, hein. Tu penses la même chose ou pas, Léo?
Moi, je pense que Monaco, c'est une belle équipe.
Sur le match d'hier, en tout cas.
Sur le match d'hier. D'ailleurs, les coachs l'ont dit. On a Adi Hütter qui a dit qu'il avait perdu contre une très bonne équipe de Lyon. Et Pierre Sage qui a dit qu'il avait gagné contre une très bonne équipe de Monaco. Donc, c'était un match vraiment agréable. On parle du Bayer Leverkusen, mais je pense que l'OL est un petit peu au-dessus.
C'est quoi ce chauvinisme là, mon gars? Arrête là! Oh là là!
Non,
sinon, on parle d'une équipe championne d'Allemagne qui est en demi-finale de Ligue
non,
Europa.
C'était pour la petite blague, mais sinon,
de Coupe d'Allemagne.
En plus,
il y a un petit résultat moi qui m'a surpris, entre guillemets, c'est la victoire de Clermont contre Reims. Reims, ça va plus du tout.
L'entraîneur est partant, je crois. Non,
l'entraîneur est partant, et après le match, Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, a d'ailleurs adressé un scud à Will Steele qui ne devrait pas sortir.
J'ai pas suivi ça. C'était quoi la teneur, justement?
Il a en gros dit que Will Steele partirait et que maintenant la saison, c'était une fin de saison un petit peu roue libre, quoi. Et c'est pas quelque chose, je pense, que ton président, un président ne devrait pas désavouer publiquement aussi.
L'effectif
fort,
n'est plus tenu, c'est ça?
Si, mais que Will Steele a déjà la tête ailleurs, en gros.
Ah ouais.
Et c'est pas un discours que je pense qu'un président devrait tenir vis-à-vis de son entraîneur, même en fin de saison.
Bah moi, c'est là, je voulais revenir aussi, mais je pense qu'on est revenu un peu sur le tout. Je vais parler de la Ligue 1 en général, hein. Je pense que maintenant, c'est du mano à mano un peu partout, hein, que ça soit en termes de relégation. Là, maintenant, Clermont qui gagne contre Reims avec une différence de but qui va compter aussi dans les dernières journées. Du coup, je pense que rien n'est fait encore, même s'il y a des petits écarts, rien n'est fait encore. Et je pense que ça va se battre et ça va être tout un...
Moi, je vois deux sur descendre, Lorient et Clermont.
Ah bon?
Ouais, je les vois descendre. C'est gros comme le ciel, là, selon moi.
Bon, ouais, parce qu'ils sont au bout de tableau, mais...
Non, même quand tu les vois jouer dans l'attitude...
Par rapport au calendrier aussi.
Ouais.
Bah, il y a Lorient qui joueront contre Clermont déjà, donc déjà ça va pas les arranger l'un contre l'autre, mais attention. Et Metz aussi, moi je voulais revenir, Mikotadze qui fait, même si là ils ont perdu encore, il a encore marqué, et il revient très bien, il est en train de les porter sur...
Avec un arbitrage un peu douté aussi, hein, par moment.
Aussi, un peu, mais c'est la Ligue 1.
Lucas?
Alors moi, pour changer un petit peu ce qui a été dit, je vais retenir le match de Marseille, parce que vu qu'ils sont loin en Europa League, je pensais qu'ils mettraient tous cette compétition, et qu'ils allaient un peu lâcher la Ligue 1. Et en fait, je vois qu'avec cette victoire, ils restent quand même dans le dans la lutte pour vraiment se qualifier directement pour la Coupe d'Europe. Ce sera l'Europa League ou la conférence, sûrement pas la Ligue des Champions, puisque c'est fini là, avec la victoire de Brest. Je pense que les quatre premiers, c'est plié. Mais ouais, Marseille, assez surpris qu'ils aient réussi à retourner Lens. En plus, avec un scénario, ils marquent très tôt. Ils se font reprendre et ils arrivent à marquer en fin de match avec Pape Gueye qui est annoncé partant et tout. Ça montre quand même qu'il y a des joueurs qui sont toujours, toujours motivés, que l'effectif continue à répondre et qui sera présent pour les échéances de fin de saison. Donc je vois bien, ouais, et ça me conforte dans l'idée qu'ils vont continuer à faire en Europa League et qu'ils vont avoir une bonne fin de saison.
Pape Gueye qui a fait une déclaration, hein, il veut rester à condition, ouais, selon ses termes, qu'on le respecte. C'est ce qu'il a dit justement. Stéphane,
je te traduis, Malik, ça veut dire qu'on met plusieurs zéros derrière.
Bah, en vue de combien est payé Dieng, Bamba Dieng, je comprends très bien. Bamba Dieng était payé 5000 euros, faut arrêter deux secondes. Ouais, il joue à l'Olympique de Marseille, ouais, non mais faut arrêter deux secondes. Faut pas prendre tout le monde pour des quiches non plus.
Parti déjà, hein. Il a quasiment signé à Villarreal. Maintenant, bon, il marque, il est bon sur un match. Alors, bien sûr, c'est normal.
Quel match a retenu ton attention en Ligue 1,
Stéphane? Je sais que tu as beaucoup à dire là-dessus.
Non, mais je n'ai pas beaucoup à dire, mais je suis content de t'entendre. Ce n'est pas que moi, je suis ravi. J'ai écouté des émissions de radio, des gens qui critiquaient tout. Tout le monde a dit qu'elle n'avait rien à envier à personne sur ce qui se passe en ce moment. Et on s'est éclaté. Et bien sûr, on ne peut que revenir sur le match Rennes-Brest, qui est certainement, je pense, un des, en tout cas, top 5 matchs de la saison, si ce n'est le meilleur match de la saison. Parce que c'est ce qu'on disait avec Philippe tout à l'heure.
Top 3 de l'Europe.
Dans Paris Sport. Non seulement il y a eu des buts, mais ce n'est pas ça. Tu peux avoir des buts, avoir 5 ou 6, 4, 5, 0, des gens qui prennent l'âme, mais tu as eu partout des scénarios incroyables. Le scénario de Lyon-Monaco, il est incroyable. C'est Monaco qui ouvre le score. Je pense que c'est Lyon qui revient. Il marque le but à la minute. Même le scénario de Paris Saint-Germain-Le Havre, qui effectivement, comme j'ai entendu là, a carrément laissé pendant une heure couler sans jouer. J'ai l'impression qu'ils ne jouaient pas ou à deux à l'heure, qu'ils n'avaient pas vraiment envie de. Et puis sur la fin, il remonte. Et le scénario de Rennes-Brest, c'est quand même exceptionnel, quoi. Et en plus, avec des beaux buts, ils se sont envoyés la balle, les uns, ils ont couru après le score et tout. C'est tout simplement. C'était super. Et puis, juste pour revenir à ce qu'on disait, c'est que Reims-Caillot, il est un peu en colère parce qu'ils sont en couvenir. De toute façon, il peut dire ce qu'il veut à Oustil, ouais. Il a envie de partir, il va partir.
Et puis, il les maintient en Ligue 1, il peut parler maintenant.
Il y a deux clubs en championnat, il n'y en a que deux qui n'ont rien à jouer, c'est Strasbourg et Montpellier. Tous les autres clubs, ils peuvent encore jouer quelque chose. Même Reims, avec ses 10, qui est 11e, je crois, avec ses 10 points, et peut jouer quelque chose. Il y a deux clubs qui n'ont rien à jouer, quasiment, on va dire, c'est Montpellier et Strasbourg. Tous les autres, ils sont concernés par le bas du tableau ou par le haut. Et 4 points, ça va super vite, surtout quand on voit Clermont, effectivement, qui met 4-1 à Reims. Quand on voit Clermont qui a failli prendre un résultat au Parc des Princes, avec un concours de circonstances. Et puis, je suis pas certain non plus qu'on puisse dire que c'est joué pour les 4 premiers. Parce qu'une équipe qui est très loin, qui est pas du tout une équipe que j'aime bien, mais Nice, par exemple, Nice qui va jouer le Paris Saint-Germain, déjà champion, peut-être qualifié pour la finale, ça serait bien pour eux, qui va les jouer juste après en match en retard. Nice qui va jouer la dernière journée, je ne sais plus si c'est Nice-Lille ou Lille-Nice, mais en tout cas Nice et Lille, ils s'affrontent à la dernière journée, la 34e journée, donc ça veut dire que tout est encore possible, ouvert, je pense, pour eux. Par rapport à Lille.
Merci Stéphane pour tes lumières. À présent, les amis, on va parler encore une fois de l'Olympique de Marseille. Quel choix pour quel résultat? L'Olympique de Marseille pense à plusieurs entraîneurs avec Paulo Fonseca qui est en pole position pour remplacer Jean-Louis Gasset. On a cité des noms de Vincenzo Italiano, Thiago Motta, Sergio Conceição, Franck Hayes et même Habib Bey. Selon vous, quel entraîneur serait le meilleur coach pour la saison prochaine au niveau de l'Olympique de Marseille? La virgule n'est pas venue, je laisse Lucas intervenir.
Pour moi, c'est évidemment Paulo Fonseca. Il fait un travail remarquable à Lille depuis 2 ans. Ça joue bien au football, il connaît la Ligue 1. C'est un coach qui est encore jeune, qui a un football moderne. On voit des fois des coachs qui ont un petit peu des tactiques à contre-emploi. Non, Paulo Fonseca, c'est vraiment le football offensif comme... Xabi Alonso un petit peu ou d'autres, et je le vois très très bien réussir à Marseille, et je pense qu'Abi Bey c'est la fausse bonne idée, et Thiago Motta, ne rêvez pas, il est promis au PSG.
Eladj.
Oui, bah moi je pense que Conceição aussi maintenant avec André Villas-Boas qui est passé du côté espagnol, moi je pense que Conceição ça serait pas mal parce que pour le Fonseca je pense que maintenant il a d'autres ambitions et il pourrait même viser autre chose parce que Marseille ne va pas jouer même la Ligue Europa, je pense pas qu'ils la joueront. Du coup je pense qu'il peut aller chercher un autre club, Paulo Fonseca, et surtout c'est pas le profil idéal pour un Marseille surtout dans cette ambiance là. Je vois plus Conceição avec les épaules pour tenir un Marseille comme ça que Paulo Fonseca.
Mais Conceição qui a été confirmé hein, si je dis pas de bêtises.
Il était avant le truc. Moi, maintenant, j'avais lu des choses comme quoi il n'allait pas rester.
Il a une clause de départ si Villas-Boas était président.
Mais ouais. Ils ont dit aujourd'hui qu'ils allaient se rencontrer pour voir si finalement ils ne peuvent pas trouver un accord. Donc le départ n'est pas encore acté.
D'accord. Ouais. Léo.
Moi, je suis plutôt d'accord avec Eladj et Lucas. Je pense que Paulo Fonseca pardon, et Sergio Conceição tiennent la corde parce que Thiago Motta, c'est hors de portée. Il me semble que la Juve est dessus, même si la courbe sud de Turin aimerait garder Massimiliano Allegri.
Bah non, moi j'ai entendu que c'est sûr que c'est fini pour Allegri.
Ils ont
mais moi j'ai vu que c'était sûr pour Allegri.
Pour la direction, fini. Mais les supporters hier de la courbe sud ont déployé une banderole devant
un peu,
le
un peu comme au Bayern Munich.
Ouais.
Exactement.
Et je pense qu'il y a autre chose de plus important encore que le choix de l'entraîneur, c'est la direction que l'OM veut prendre. Parce que c'est bien de changer d'entraîneur, de changer d'effectif tout le temps. Mais Paulo Fonseca, si tu l'installes, il faut que tu lui laisses le temps de l'installer. Un entraîneur qui fait jouer ses équipes, il faut lui laisser le temps de toute manière. Tu pourras pas lui demander des résultats immédiats et avoir des attentes forcément. Peut-être qu'il n'aura pas de Ligue des Champions dès sa première saison s'il vient. Il devra peut-être accrocher une Ligue Europa Conférence, voire même pas de Coupe d'Europe, mais c'est pas pour autant qu'il faudra être alarmiste. Il faudra lui laisser le temps s'il vient.
Asdin, quel choix pour Marseille par rapport à un nouvel entraîneur?
Bah écoute, ça fait 4 ans que Marseille, ils n'arrivent pas à trouver un coach, il n'y a pas de stabilité. Et il y a un nom qui n'a pas été sorti, et Jamel Belmadi pour moi. Je trouve que ça serait pas mal. Ancien joueur de l'OM, il parle français et il sait répondre aux journalistes.
Ah, il sait pas répondre. Son calme.
Oui, mais il sait répondre aux journalistes, il sait répondre aux supporters.
Rachid Zeroual, il vient même pas un mois, ils sont un one-on-one dans un octogone.
Franchement, pour moi, ça serait vraiment une bonne idée, c'est à tenter. Au lieu d'aller chercher un entraîneur portugais, etc., Abi Bey qui est encore un peu frêle pour moi, je pense que Jamel Belmadi, c'est à tenter.
Alfred.
Enfin, moi, les entraîneurs cités, je ne vois pas que ça va changer grand-chose à Marseille. Marseille, il faut un grand directeur sportif. C'est ça qui est très important. Marseille a perdu...
Il y a Benassia qui est là. Hein.
Oui, mais on veut des personnes comme Pape Diouf. Donc, pour moi, tous ceux qui ont joué à Marseille, qui n'ont pas, à ma foi, porté de la fidélité au club, des personnes comme Papin ou Basile Boli, qui ne sont pas impliqués dans le club, on leur donne des petits postes par là... Je pense pas que Marseille fera grand
chose. Papin est entraîneur des jeunes.
De la réserve.
Basile Boli est ambassadeur.
De la réserve. Ah, pourtant, le statut de, Papin aujourd'hui dans en réserve, pour moi, c'est pas trop le considérer.
Donc, selon certaines indiscrétions, il a été vexé justement de ne pas remplacer, de pas pouvoir remplacer Gattuso justement.
Bah oui, parce qu'il mérite mieux que ça. Après, Basile Boli, j'ai l'impression que peut-être que, je sais pas, je crois pas que c'est des
Mais non, tous les anciens joueurs ne sont pas forcément aptes à devenir des entraîneurs
non plus. Oui,
je
suis d'accord. Il ne
faut pas voir les choses comme ça.
Oui, mais en même temps, je dis une chose, Marseille t'a accueilli, elle t'a aidé aussi, porte de la reconnaissance.
Mais c'est pour ça qu'il est ambassadeur, ils vend l'image de Marseille. C'est
mais tantôt tu le vois hors serre.
Mais c'est peut-être ça son niveau aussi.
Je pense que c'est sa place. Ouais.
C'est sa place, tout simplement. Mais t'as pas un nom comme ça qui te vient parmi les cités ou même ceux qui sont hors...
Je pense que Marseille doit chercher un entraîneur expérimenté.
Donc Jean-Louis Gasset reste. Donc Gasset reste.
Non, c'est pas. Il est là parce que
c'est
bon, voilà.
Expérimenté.
Expérimenté. Après, non, il est non.
Pour toi, Gasset, non, c'est même pas la peine.
Il faut aller chercher.
Même s'il est annoncé partant depuis le début, non.
Qui
malgré
part.
Tout, on doit qui rien part. Faire pour le retenir. Rien. Darius.
Moi, j'aime bien aussi l'idée de Conceição. Je sais pas si c'est forcément la plus probable. Après, c'est vrai que ça a du sens. Moi, j'aimerais parler de Abi Bey un peu parce que je trouve que c'est pas forcément une si mauvaise idée que ça.
Asdin a dit qu'il est un peu frêle.
Bah, il est un peu frêle. Il est pas expérimenté. Enfin, peut-être pas assez pour les Marseillais. Après, c'est quand même un coach sérieux. Il a des idées. Il a quand même bien changé le Red Star pour le mieux. Aussi, c'est un coach qui se laisse pas faire, qui a du répondant. Moi, je pense que ça pourrait être son entrée au plus haut niveau.
Très bon consultant, surtout.
Stéphane.
C'est ce qu'on sait de plus sur lui.
Un quad promoteur. Un quad promoteur.
Je pense que, si vous voulez, un peu contraindre quoi, ce que j'ai un peu entendu, je pense qu'il ne faut pas trop un entraîneur qui ressemble à Marseille. Donc, par exemple, moi, je pense, hein, mais encore une fois, je n'ai pas la science infuse, que Djamel Belmadi, ça serait une énorme bêtise. Quoi. Parce qu'au bout de... Au bout de 2 mois, s'il y a un mauvais résultat, il y a une bagarre en salle de presse.
C'est exactement ça.
Et il va dans les tribunes pour se battre. Et tout ça. Donc ça pourra pas passer. Je pense. Il ne faut pas
une bagarre. Cliché.
Non, c'est pas cliché. On a vu ce qu'il a fait à Benrahma. T'as vu ce qu'il a fait à Benrahma. Et il ne le rappelle pas après, en plus, pour la CAN. Et il avait largement sa place. Non, faut arrêter.
On laisse Stéphane finir.
De loin, de toute façon, le meilleur entraîneur de tous ceux dont on a parlé pour l'instant et qui sont annoncés autour de l'OM, c'est bien sûr Paulo Fonseca. Maintenant, Paulo Fonseca, ça va être, surtout s'il n'y a aucune Coupe d'Europe, ça va être très compliqué de le prendre. Maintenant, ce n'est pas sûr non plus qu'il y ait beaucoup de bancs de son niveau, je veux dire, parce que Liverpool, bon, c'est pris, le Barça, il reste, peut-être Manchester United, mais... Donc ça va être un peu compliqué. Je le disais, ceci dit, petite anecdote, j'en parlais avec Eladj sur l'affrontement avec Aston Villa, que pour moi c'était largement coach du niveau de Unai Emery au niveau de coaching. Et donc
vous parlez beaucoup de Paulo Fonseca, mais en fait le mec il n'a rien gagné, les amis. Hein.
Il a rien gagné en Ukraine. Il a gagné 3 championnats.
C'est vrai que vous êtes tous dans une politique de résultats absolus. Moi, j'avais un ami coach qui était Roland Courbis, qui était mon ami, et qui disait toujours, pour moi, un grand entraîneur, c'est celui qui arrive à tirer le maximum de son effectif. Et pas, parce que lui, notamment, il disait, bien sûr, ça sûrement, parce que lui, il n'a jamais rien gagné. Quoi, jamais gagné de titre de champion.
C'est toi qui l'as dit.
Tactiquement, il est catastrophique aussi, Courbis, peut-être aussi.
Comment ?
Parce que tactiquement, il a toujours été catastrophique, Courbis aussi. Il a effectivement, c'est un meneur d'homme, il a plein de qualités.
Je sais pas,
mais tactiquement, Courbis,
attention, c'est son pote. Hein.
Ouais, j'ai entendu. Mais bon.
Je sais pas si c'est assez causerie, mais je pense que c'est effectivement, c'est assez. Puis on parle d'un temps révolu, c'est peut-être le niveau des Giroud, de tout ça. Aujourd'hui, le football, il a changé. Et donc, il y a des choix tactiques, des grands tacticiens et tout, qui sont amenés. Moi, je pense que Paulo Fonseca, ça serait un rêve de pouvoir avoir un entraîneur comme ça pour l'Olympique de Marseille. Maintenant, jamais l'Olympique de Marseille n'acceptera de terminer 7e ou 8e ou 9e d'un championnat. Donc, mais de toute façon, ça n'arrivera pas avec un coach comme Fonseca. Mais je suis aussi d'accord à ce que j'ai entendu d'Alfred, c'est-à-dire que ce qu'il faut surtout à l'OM, c'est des grands dirigeants, des grands patrons, quoi, des grands directeurs sportifs, des grands présidents qui fassent bien les transferts qu'il faut et pas pour se faire... Enfin, si vous avez entendu le chiffre qui est tombé dernièrement...
Oui, rapidement, Stéphane.
19 millions d'euros versés par Paulo Langoria, sous la présidence de Paulo Langoria, aux agents uniquement en commission. Aïe. Uniquement en commission.
Non, ouais, ça fait 2 joueurs en devenir, ça. Hein.
Donc voilà, donc ça veut. Il faut peut-être autre chose que ça. Il faut peut-être à la place de ça, un président qui va acheter un joueur à la place de ça. Et puis quand on voit Pape Gueye pas sur la liste, de l'Europa League et tout ça, parce qu'il était en fin de contrat. Et pas d'accord pour prolonger, donc c'est des fautes, je pense.
Merci à tout le monde. Hein. Moi, je milite pour que tout simplement Jean-Louis Gasset reste hein, là où il est, tout simplement. Il faut juste le convaincre et lui donner certainement des joueurs qu'il aura demandé, 2-3 joueurs. Je pense que ça pourra faire l'affaire. Merci les amis d'avoir été d'un autre. Léonard a réalisé cette émission au bout du foot. Une pensée pour Jason Lindor. On salue Abou, on salue Lucas, Elag, Léo, Asdine. Hein. Bienvenue Asdine.
Merci.
Alfred, re-bienvenue à toi. Merci. Également. Merci. On se donne rendez-vous lundi prochain avec un débrief des demi-finales de la Ligue des Champions ainsi que de la Ligue Europa. Salut.
Victoire obligatoire, quelle que soit la manière, selon le sélectionneur.
On peut disserter, il n'y a qu'une chose.
Son équipe n'a pas le droit à l'erreur.
C'est le résultat.
Encore faudrait-il pour cela qu'il commence à jouer au football, ce qui n'a pas vraiment été le cas.
Vous suivez Au bout du foot avec Malik Eudi et toute sa team. Chaque lundi, 20h30, 22h, sur monparisfm.com.